بسم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 18 safar 1432 de l'Hijr, qui correspond avec le 22 janvier 2011. Donc, Inch'Allah Ta'ala, puisque je ne suis pas encore rétabli, Inch'Allah Ta'ala, dans la langue Mashafa'at, et que par conséquent je ne vais pas faire le dars, car le cours ça demande une préparation. Donc, j'ai dit Amin. J'ai dit Inch'Allah Ta'ala, on va faire un rappel comme ça. Ensuite, on va passer aux questions-réponses. On va faire un rappel sur un passage du livre L'Umat l'I'tiqad. L'Umat l'I'tiqad du grand savant Abdullah ibn Udama. Et ce livre, bien sûr, il a les commentaires du grand savant Cheikh Ibn Salah العثيمين رحمه الله، محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. Donc ce livre que tout le monde bien sûr devrait avoir au moins parce que il a été traduit en français. Il s'appelle en français le substantifique du credo. Le substantifique du credo. Je vais l'écrire inshallah ta'ala une seconde. Le Là, il est traduit de l'arabe, traduction de l'arabe par Hamza Lamin Yahyaoui, Dar al-Kutub al-Ilmiya, la maison d'édition, Dar al-Kutub al-Ilmiya, Beyrouth, Liban. Du moins, c'est ce que j'ai moi. Peut-être qu'il y a d'autres maisons d'édition, Allah subhanahu wa ta'ala. Mouhim. J'ai choisi où le Cheikh Rahimahullah parle, yani il dit, toute innovation en matière de religion est une hétérodoxie. Je répète, toute innovation en matière de religion est une hétérodoxie. Il dit, quiconque s'apparente à autre chose que l'islam et la sunna est hétérodoxe. Tels les rakhlari jahmites, les kharijites, les qadarites, les mourjites et les mourtazilites et les karamites et les salimites. Les gens du kalam et similaires. Ce sont des groupes égarés et des sectes hétérodoxes que Dieu nous en préserve. Comme ça a dit, le cheikh Abdullah ibn Qudama ala rahmatullah. Maintenant, Cheikh ibn Uthayma rahmatullah, dans le commentaire, dit titre caractéristique des hétérodoxes et quelques-unes de leurs sectes. Les hétérodoxes se reconnaissent à certains signes caractéristiques, dont voici des exemples. Leurs paroles, pratiques et convictions religieuses hétérodoxes qu'ils inventent ne s'apparentent pas à l'islam et à la sunna. C'est-à-dire, un. Deuxièmement, il montre un fanatisme opiniâtre et intransigeant pour leur doctrine et opinion, et ne s'allie pas à la vérité, même si elle leur est prouvée et qu'ils s'en aperçoivent. 3. Ils ont de la haine et de l'aversion pour les chefs de la communauté musulmane et ses docteurs d'autorité. Donc ceux qui ont l'habitude de côtoyer les gens de la bida, les côtoyer, ce n'est pas pour les prendre comme amis, mais pour discuter avec eux, pour débattre, pour leur montrer la vérité, etc., comprennent très bien ce qu'a voulu dire ici, ou ce qu'a dit ici Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience, ils comprennent pas bien cela. Mais ceux qui ont l'habitude de s'asseoir avec les gens de la bida pour leur montrer le haq, etc., comprennent très bien ce qu'a dit ici Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Entre autres, lorsqu'il a dit, il montre un fanatisme opiniâtre et intransigeant pour leur doctrine et opinion. Et ne s'allient pas à la vérité, ne reviennent jamais vers la vérité, même si elle leur est prouvée et qu'ils s'en aperçoivent. Là, tu as beau lui donner les versets, les hadiths, ce qu'a dit Cheikh Islam, ce qu'a dit l'autre, là, il ne revient pas vers la vérité. Il veut que tu comprennes le Coran et les versets comme lui les a compris. Lui, bien sûr, est leur gourou. Non. Il veut que tu comprennes le hadith comme lui l'a compris. Pas comme Allah Ta'ala veut que nous le comprenions. Mais comme lui l'a compris, ou bien, comme j'ai dit, c'est leur gourou. Et bien sûr, lorsque Cheikh Rahmallah l'a dit, ils ont de la haine et de l'aversion. L'aversion, ça vient de l'adversité, pour les chefs de la communauté musulmane et ses docteurs d'autorité et des savants. Ils ont une grande haine pour ces gens-là. Ensuite, il a cité parmi ces sectes-là quelques-unes, les plus connues et celles dont il faut toujours se méfier. Et quand vous devez savoir, j'allais dire justement l'écrire numéro 1. Quand vous devez savoir, plus les gens de nous, plus on connaît le mal d'où il vient, plus on peut lui fermer, fermer les portes et les fenêtres pour que ce mal ne vienne pas de ce côté-là. Et plus on sait et on connaît que telle chose est un mal, telle chose est une bid'a, telle chose est haram, c'est là qu'on peut bien sûr l'éviter. Mais si on ne connaît pas ces choses-là, ça veut dire qu'on risque même de les faire. On fait ces choses et on ne sait pas. Et pire encore, on peut même exhorter les gens à suivre telle et telle chose, alors que c'est une bid'a ou c'est une chose vraiment réprimandée en islam. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas que cette chose est un mal. D'où la nécessité de connaître les sectes égarées. Parce que certains gens te disent, moi je me suffis à connaître le vrai, ça me suffit. Je connais le Coran et les hadiths, ça me suffit. C'est pas la peine que je connaisse quelles sont les sectes égarées, etc. Et comme vous devez le savoir, bien sûr, maintenant que ces sectes sont nées et ont existé et sont là avec toi, ils vivent avec toi, ne pas les connaître devient un grand danger pour le musulman et pour la Ummah. Ne pas connaître les sectes devient un grand danger pour la Ummah. C'est même un grand danger pour la personne elle-même. En fait, quand je dis par exemple les Rafidah, je dis les Mu'tazila, je dis les Khawarij, je dis les Takfiri. Si quelqu'un ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire Rafidah? Qu'est-ce que ça veut dire Jahmi? Qu'est-ce que ça veut dire Mu'tazili? Il ne sait pas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il va peut-être accepter leurs dogmes, accepter leurs idées, accepter leurs idéaux. Et mieux que cela, ou le pire, il peut même exhorter les gens à suivre. C'est pour cela que des fois, quand on dit à une personne, par exemple, telle personne est un takfiri, par exemple, ou takfiriya, et que la personne elle-même, dont on a mis en garde, yani, elle apprend cette chose, elle s'étonne. Moi je suis tkfiri, a'oudou billah. Ils disent de moi tkfiri, et comme ça. Pourquoi? Parce que la personne elle-même, ne sait pas, elle ne fait pas exprès. Elle ne fait pas exprès quand elle a dit, pourquoi ils ont dit de moi tkfiri, ou bien tkfiriya. Elle n'a pas fait exprès. Elle-même ne sait pas c'est quoi le tkfir. Ne sait pas c'est quoi le djihadisme, ne sait pas c'est quoi l'ash'arisme, et comme ça. Et c'est pas la peine de vous citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que cette umma va se diviser en 73 sectes. Et que de ces 73 sectes, seulement une secte ira au paradis. Seulement une faction ira au paradis. Les autres 72 en enfer, oulayadou billah. Et c'est pas la peine de vous citer le hadith que vous devez sûrement connaître de Hudayfa ibn al-Yaman qui disait que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde allait yani, vers lui salam, pour lui demander qu'il leur apprenne le bien. Sauf moi, j'allais vers lui, ou là, je m'asseyais auprès de lui pour qu'il m'apprenne le mal. Car celui qui ne connaît pas le mal, qu'est-ce qui lui arrive? Il peut le faire, il peut le faire et il peut être touché par ce mal sans qu'il s'en rende compte. Il ne sait pas. Il ne sait pas que cette chose est une bid'a. Ça va lui plaire, il va même applaudir, il va dire ça c'est mashallah, etc. Ça y est. Donc les rafidas. Très connus aussi sous le mot des chiites. Mais les savants, disent de préférence qu'on ne dit pas des chiites. On dit les rafidas. Pourquoi? Parce que les chiites, ce sont ceux qui suivent, yani, al-bayt, la maisonnée, la maisonnette là, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, en ce sens, comme dit Cheikh Rabbi Hafidallah, en ce sens, nous sommes tous des chiites. Et moi, je suis un chiite, en ce sens. Quoi? J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais j'aime sa famille. J'aime ses épouses, j'aime ses enfants, j'aime ses oncles, bien sûr, tous ceux qui sont musulmans. Donc c'est pour cela que, de préférence, on ne dit pas les chiites. Pourquoi? Parce que ceux qui existent maintenant, ceux qui sont en Iran par exemple, ou là en Afghanistan, ou là au Pakistan, ou là un peu partout dans le monde, ils disent nous sommes des chiites. En vrai, ce ne sont pas des chiites, mais ce sont des rafidas ou bien rafidites. Rawafid, ou bien on dit de Rafida, ou bien on dit Rawafid, ou bien on dit Rafidit. C'est la même chose. C'est le mouhim. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, les Rafida, ce sont ceux qui montrent un zèle extrême et outré dans la vénération de la femme et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai dit, c'est le premier signe. Deuxième signe, en accusant d'impiété ou de perversité le reste des compagnons. En accusant le reste des compagnons, sauf les compagnons de la famille du prophète, tous les autres sont des impies, des kofars, ou à la rigueur des pervers. Et il dit le chef, ils comprennent de nombreuses sectes dans les extrémistes, le roulette, ou ultra. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou là, qu'est-ce qu'ils font? Ils déifient. Ils déifient Ali ibn Abi Talib. Déifient, ça veut dire le prennent pour Dieu. Donc, parmi les rawafid, il y a les extra-hadou, les ultra, les extrémistes, il y a une partie parmi eux qui disent que Ali ibn Abi Talib est un Dieu. J'ai même une fois entendu un cassette, de l'un de leurs soi-disant savants, Jarma savant. Et il dit dans la cassette que, il cite comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, il lui a dit, tu insultes. telle personne, et j'ai oublié même maintenant c'est qui la personne, hein, ou là tu insultes Ali ou quelque chose comme ça, alors que Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui t'a créé. Hein, tu insultes Ali, alors que Ali, c'est lui qui t'a créé, comme ça, qui t'a créé. Donc, subhanallah al-Azim, il y a un coffre plus grand que celui-là, il n'y en a pas, bien sûr. D'ailleurs, Cheikh Rahimallah dit, leur hétérodoxie et leur bid'a vit le jour pour la première fois lors du califat de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Ali sallam, le mari de Fatima. Quand Abdullah ibn Saba, le juif, lui dit, tu es le Dieu. Il a dit à Ali ibn Abi Talib, tu es le Dieu. Sur ce, Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agré, ordonna de les brûler vifs. Il a ordonné qu'on creuse des tranchées et qu'on jette tous ces gens dans le feu. Poussant leur chef, Abdullah ibn Saba, à la fuite vers Madain. Donc, c'est Abdullah ibn Saba s'est enfui vers certaines villes comme ça pour se réfugier. Et c'est celui-là qui, Naam, a été le premier à faire sortir, disons, il a donné naissance à cette maudite secte qui s'appelle les Awafites. Leur doctrine concernant les attributs divins sont diverses. Certains sont assimilationnistes, mushabbiha, d'autres quasi-négateurs des attributs, qui dépouillent à l'extrême Allah Azza wa Jalla de ses attributs, et ils sont mu'attila. Et d'autres enfin aux opinions modérées. Pourquoi on les appelle les Rafida et les Rawafid? Pourquoi? Beaucoup ne savent pas. Ils te disent qu'il fait partie des Rafida, mais c'est pas pourquoi on les appelle Rawafid ou bien Rafida. Ils ont été appelés Rafida. Rafida en français, c'est contestataire. Contestataire, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas. Du verbe en arabe Rafada. Rafada, il n'a pas accepté. Quand j'ai dit à quelqu'un mange, je dis Rafada, il n'a pas accepté. Je dis à quelqu'un parle, il n'a pas accepté. Rafada. Le verbe Rafada, ça veut dire il n'a pas accepté. Il a contesté. Donc, qu'est-ce qu'ils contestèrent en fait? Ils contestèrent la réponse de Zayd ibn Ali, fils de Hussein et petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Donc, Ali ibn Abi Talib a entre autres Al-Hassan ou Al-Hussein et Muhsin. Et ce Hussein a aussi un fils qui s'appelle Ali. Il s'appelle Zayd. Là. Donc, qu'a dit ce Zayd et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils lui ont demandé son avis sur Abu Bakr et Omar, que Allah Azza wa Jalla les agrée. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce Zayd ibn Ali? Il invoqua Allah de leur accorder sa miséricorde et rendit hommage à leur mémoire. Alors, ils rejetèrent son avis et le mirent en quarantaine. Donc, à partir de ce jour, on les a appelés les Rafida. Ils n'ont pas accepté que Zayd ibn Ali, qu'est-ce qu'il fait? Qu'ils disent sur Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhumah. Ils ont voulu qu'ils disent que Allah les maudisse, ou ce sont des kuffars, ou ce sont des pervers. Mais quand il a dit radiyallahu ta'ala anhumah, ils ne lui ont plus parlé et l'ont mis en quarantaine. De ce jour, on les appelait les Rafida. Pourquoi? Rafadou. Ils n'ont pas accepté cette attestation du petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala. Parmi les sectes aussi, et bien sûr, c'est pas la peine de vous dire que dans leur dogme, qu'ils calomnient notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et bien sûr, le fait de calomnier Aïcha radiyallahu ta'ala anha, c'est très grave. En quel sens? En ce sens que Allah Ta'ala a fait descendre dans son nom des versets qui disent que tout ce qui a été dit sur elle, c'est de la calomnie et mensonge sur mensonge, et que celui qui a dit une chose sur elle, un grand châtiment l'attend yom al-qiyama. Et eux donc, malgré cela, hein, comme a dit Allah Ta'ala, « Oulaïka mubarra'una mimma ya'ulun, lahum maghfiratun wa rizqun karim. » Il a dit en parlant de Aïcha, « Elle est beri'a, elle est yani, innocente de ce qu'ils disent. » Et bien au contraire, il y a un grand, une grande, grande récompense qui l'attend yom al-qiyama. Mais cela, malgré le verset, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que elle a fait telle et telle chose pour l'ayadu billah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je démonte le Coran, ou du moins, je démonte ce verset qui dit comme ça. Ce verset, c'est un mensonge. D'où, l'âme, d'où vous voyez que, yani, dire d'eux que ce sont des kofas, yani, c'est pas vraiment grave. Yani, le verset est clair, ils disent non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aïcha a fait la zina. Mais le verset a dit non, non. Le verset, il faut pas le comprendre comme ça. D'ailleurs, le Coran lui-même est falsifié. Donc, A'oudou Billah qui dit comme ça, yani, il n'y a plus de doute qu'il est devenu un kafir ou l'ayadou Billah. Et ensuite, si on prenait le deuxième verset, où Allah Ta'ala dit, attendez, je me rappelle le verset. الخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. طيب الله تعالى كيف قال دي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قال دي لخبيث نعم الخبيثات لخبيثات دي فام صادق لي بيرفيرس les femmes sont perverses, ou perverses, hein, a dit, celle-là, hein, disons, se joignent aux pervers. Hein, et celles qui sont bien et bonnes, hein, doivent se joindre aux bons et bonnes, aux bons des hommes. Donc maintenant, si on va dire d'elle, et le contraire, il a dit, maintenant, si on va dire d'elle, c'est la filazina, donc c'est quoi? C'est une khabita. Et si c'est une khabita, Allah a dit, el khabitat il khabitim. Donc son mari doit être aussi un khabit. Et le mari de Aïcha, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? D'où, yani, d'où, comment dire, yani, vraiment, yani, même pas le mot qu'il faut dire. Yani, pour montrer à quel point ils ont été égarés. À quel point ils ont été égarés et éloignés de la lumière, de la vraie lumière. Alhamdulillah, comme je vous l'ai dit une fois, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé d'eux. Il s'est vengé ou il a appris la vengeance de notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha en deux choses. La deuxième, c'est Yom al-Qiyama. Qu'est-ce qui les attend comme châtiment horrible? Et la première, c'est, comme on dit en arabe, al-jaza'u min jins al-amal, c'est de les avoir punis en faisant de sorte que la plupart de leurs femmes et de leurs filles font la zina. Sous quoi? Sous, yani, comment ça s'appelle avec, sous le voile ou la, de quoi? Du mariage temporaire. C'est, d'après eux, ils ont fait un mariage temporaire. Et mariage temporaire, c'est halal pour eux de se marier un quart d'heure ou la 10 minutes ou là, une nuit. Mais, tout le monde sait que, yani, c'est de la zina, de la pure zina. Donc, vous voyez, comment Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a pris quoi? A pris la vengeance de notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, et comment il s'est vengé d'eux. Ensuite la deuxième secte, les Jahmites, on appelle aussi Jahmiya. Beaucoup de gens disent cette personne a une doctrine de Jahmite. Et ensuite, ça me rappelle autre chose. L'avantage de connaître les sectes aussi, c'est quoi? C'est de ne pas tomber dans la secte sans le savoir. Il est possible que, parmi nous ici, il y a des frères et des sœurs qui ont, par exemple, certaines choses, par exemple, du credo, de la aqida, ou du minhaj, ou de la doctrine, de certaines sectes. Peut-être parmi nous, il y a certains frères ou sœurs, par exemple, qui disent des choses qui sont de la doctrine des Mu'tazilites, ou bien de la doctrine des Jahmites, ou bien de la doctrine des Rawafid, ou bien de la doctrine des Asha'ira, Asha'arites, et comme ça. Mais maintenant, si tu connais toutes ces sectes, donc tu ne vas plus dire ou bien penser comme eux. Tu ne vas plus avoir leur credo et leur doctrine. Pourquoi? Parce que tu les connais, tu sais ce qu'ils disent. Et tu connais la différence entre El Sunna al-Jama et entre eux. Et celui qui ne connaît pas les sectes, de temps en temps, s'il ne dit pas à 100% ce qu'ils disent, mais il peut dire à 20%, à 30%, à 10%, il peut dire des choses qu'ils disent. Donc il peut les joindre dans certaines choses. Les Jahmites, nom d'une secte dérivée de leur grand chef qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Ça on dit Jahmites, parce qu'ils suivent quelqu'un qui s'appelle Jahm ibn Safwan, qui fut exécuté pour impiété, pour coffre, en 121 de l'Hégire, par Salim ibn Ahwaz ou bien par Salim ibn Ahwaz. En l'an 122, ils l'ont exécuté. Ce Jahm ibn Safwan. Tellement il a dit des choses, vraiment, horribles dans la Aqida. Et sur Allah, subhanahu wa ta'ala. En matière d'attributs divins, ils adoptent quoi? Le dépouillement extrême et la négation des attributs. Allah Ta'ala n'a aucun attribut. Non, il n'a pas d'attribut. Il n'a même pas des noms. Non, on ne dit pas de lui, c'est lui le miséricordieux, ou bien le tout savant, ou là le très savant, ou là le très haut, là on ne dit pas. Encore moins les attributs. Sur la question de la prédestination, ils sont partisans du Jabr, ou bien du pouvoir contraignant et absolu de Dieu sur les actes de l'homme. Il dit, tout ce qui t'arrive, n'est pas ta faute. C'est Allah Ta'ala qui a voulu que ça arrive. Tu bois de l'alcool, c'est pas ta faute. Tu voles, c'est pas ta faute. Tu fais pas la prière, c'est pas ta faute. C'est Allah qui a écrit tout ça, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, bien sûr le hadith est sahih, mais ils le comprennent comme ça, donc tout ce qui a été écrit, toi tu peux pas changer. Ça a été écrit que tel jour, tu vas boire de l'alcool. Donc tu l'as bu, et qu'est-ce que tu veux? C'était écrit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne seras pas puni yom qiyama pour avoir bu cet alcool. Ensuite, puisque cela aussi, sur la question du statut du musulman, gravement pécheur, qui fait des grands péchés, ils adoptent l'attitude de l'irja. Ils sont murji'a aussi. Non. C'est pour ça que, en parlant des Jahmites, les savants disent, ils ont les trois J. J. En arabe, la lettre Jim. La lettre Jim. En français, la lettre J. Donc, les Jahmites ont les trois lettres J. Pourquoi? La première, parce que leur nom, c'est quoi leur sexe? C'est Jahmite, Ja. Donc J. Ensuite, ils sont Jabrit. Ils disent que c'est Allah Ta'ala qui a tout écrit, tout ce que tu fais, c'est pas ta faute. Ils sont Jabrit. Et ils ont la troisième lettre, J aussi, parce qu'ils sont Murji'a. Murji'a, Murjit. Là. Et c'est quoi l'Irja? Remise ou bien renvoi à Dieu de tout jugement sur le musulman pécheur. Partant de l'affirmation que la foi consiste uniquement dans l'assentiment intime du cœur, tandis que la profession verbale ou les actes, autrement dit, les manifestations extérieures de la foi, n'en font pas partie. Vous savez les mots djita, les djahmites disent quoi? Ils disent, l'iman, pour que tu deviennes croyant, c'est quelque chose qui se passe seulement au niveau du cœur. Si dans ton cœur, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala existe, khlas, tu es devenu croyant. Ce n'est même pas une condition de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est pas la peine. Ça se situe, l'iman se situe seulement au niveau du cœur. C'est pour ça que les savants disent, donc pour les djahmites, Iblis, Satan le maudit, doit être un croyant. Car Satan le maudit, non seulement sait dans son cœur que Allah Ta'ala existe, mais mieux encore, il a parlé avec Allah. Il a dit, pourquoi, question Adam, moi je suis mieux que lui. J'ai été créé de feu, lui, il a été créé d'argile. Pourquoi tu me dis de me prosterner à lui? Donc vous voyez, même s'il n'a pas vu Allah, il lui a parlé, donc, puisque la foi pour eux, c'est quelque chose qui se situe au niveau du cœur, donc, Iblis doit être aussi un croyant. Un mohim. Et on va terminer aujourd'hui avec les djinnites. Et qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent que le musulman coupable d'un grand péché, le musulman qui fait un grand péché, doit de l'alcool, ou bien vendre, ou bien faire la zina, ou bien l'usure, ou bien la loterie. De leur point de vue, c'est un croyant à part entière. C'est un croyant à part entière. Ils sont donc quasi négateurs des attributs divins, djabrit, partisans du pouvoir contraignant de Dieu sur les actes humains, et mourdite, ne se prononçant pas sur le statut du musulman pécheur. Et de là, yani, englobe plusieurs écoles. On voit l'inshallah ta'ala pour les djahmites. J'espère inshallah ta'ala que vous avez compris les djahmites. Non. Khalid Nazid Wahda, la troisième, comme ça, ce sera trois sectes qu'on a vu aujourd'hui, il a dit les kharijites. C'est juste quelques lignes. Il a dit les kharijites, musulmans. C'est avec moi, barakallahu fik. Les kharijites, ce sont ceux qui sont sortis. Pourquoi on dit kharijite? Du verbe en arabe, kharaja yakhrujo. Kharaja yakhrujo khurujan. Kharaja, il est sorti. Tu demandes à quelqu'un, tu lui dis où est Omar? Il te dit kharaja, il est sorti. Hein? Kharaja de la maison, il est sorti. Voyez. Donc, les kharijites, on les appelle kharijites parce qu'ils sont sortis. Ils sont sortis de quoi? Ils sont sortis pour combattre le gouvernant musulman Ali ibn Abi Talib. Parce qu'il avait accepté l'arbitrage humain, tahkim, entre lui et Muawiya. Vous savez que Ali ibn Abi Talib a eu quelques malentendus avec Muawiya, radiallahu ta'ala anhu. Alors, les deux ont décidé d'envoyer de part et d'autre quelqu'un, une personne de la droite et une personne de l'autre côté, pour essayer de voir, de juger quelle est des deux factions, quelle est celle qui a raison et l'autre qui a tort. Et les autres, les kharijites, qui étaient bien sûr avec Ali ibn Abi Talib, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, seul Allah Ta'ala a le droit de juger. Non, seul le Coran juge. Il n'y a pas une personne qui peut juger à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib alors a demandé qu'on lui ramène un Coran. Non. Et il a dit au Coran, il a comme ça commencé à toucher au Coran, il lui dit, juge entre nous, juge. Non, juge, parlez, juge. Non. Vous savez, c'est impossible. C'est impossible qu'un livre puisse juger, parler et dire, toi tu as raison, toi tu as tort. Toi pas, toi tais-toi, c'est pas possible. Il faut que ce soit un être humain qui fasse cette chose. Mais eux, tellement ils sont, yani, ils n'ont rien dans la tête, au point où ils ont dit donc on n'accepte pas qu'un être humain soit lui le juge. Il faudrait que le Coran lui-même juge. Alors, ils sont sortis l'islam contre l'arbitrage humain entre Ali et Mouawiya. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils désavouent Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib selon leur doctrine. Et préconisent la révolte, le khourouj, hein, qu'on dit Khalidite, le khourouj contre l'imam, le chef de la communauté musulmane, s'il vient à agir contrairement à la sunna. Si jamais le président de la République musulman, hein, ou bien le calife, s'il y a un calife, ou bien le émir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite faute, hein, en contredisant la sunna. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent alors on doit le combattre. Alors on doit le combattre. Il faut sortir, le khourouj, il faut sortir. Non. Ils affirment sa damnation éternelle en enfer. Donc ces kharijites, qu'est-ce qu'ils disent dans leur aqida et leur dogme? Que toute personne qui fait un grave péché, quand elle va mourir, elle sera éternellement en enfer. Subhanallah l'Azim. Éternellement en enfer. Donc si quelqu'un se trompe et boit de l'alcool et il n'a pas fait la tauba, il est mort, non, là, d'après eux, celui-là ne sortira jamais de l'enfer car il est devenu kafir en faisant quoi? En faisant un grand péché. Comparé entre leur doctrine et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que celui qui boit l'alcool, s'il meurt sans avoir fait la tauba, ne boira pas de l'alcool du paradis, même s'il y rentre. Subhanallah l'adhim. Celui qui boit de l'alcool et meurt sans avoir fait la tauba, ne boira pas de l'alcool du paradis. Donc c'est un dédit que il sera au paradis, mais sa punition sera quoi? Qu'il ne boira pas de l'alcool du paradis, il sera privé de l'alcool du paradis. Voilà donc, il y a la punition. Mais eux ils disent quoi? Ils disent carrément kafir, pas de paradis pour lui. Et parmi les kharijites, eux-mêmes, ils se divisent en 25 ou 30 sectes. Les deux sectes les plus dangereuses des khawarij et des kharijites, la première s'appelle Al-Azariqa. Al-Azariqa, a'oudou billah. Il y en a quelques-uns de cette secte jusqu'à de nos jours, même un peu partout dans le monde, et même chez nous, en Algérie ici, du côté du sud. Du côté du sud, il y a même certaines personnes qui ont cette secte. Ce sont des khawarij qui sont spécialement des Azariqa. Non. Les Azariqa hadou sont les plus dangereux des Khawarij. Les plus, comment dirais-je, les plus sanguinaires des Khawarij. Et ils ont dans leur, et bien sûr, ils ont leur fiqh, leur aqida, leur livre, leur savant, dans leur fiqh. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont que la femme qui a des monstrues, hein, quand elle a des monstrues, ensuite, quand elle se purifie, elle doit rattraper des salates. La femme qui a des monstrues, quand elle se purifie, doit quoi? Elle doit rattraper les salates qu'elle n'a pas faites. Donc l'égarement est à 100%. Et la deuxième secte, parmi ces khawarij, la deuxième secte, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus dangereuse, qui vient juste après l'Azariqa, c'est Al-Qa'diyya. Et certains les appellent Al-Qa'diyya. Al-Qa'diyya, de l'arabe, Qa'ada. Qa'ada, il s'est assis. Qama, il s'est levé. Qa'ada, il s'est assis. Donc il y a une secte dans les Khawarij qui s'appelle ceux qui s'assoient. Al-Qa'diyya. Cette secte, hein, la plupart des khawarij de nos jours qui se trouve en France, en Europe, en Belgique, eux, font partie de cette secte. Pourquoi on les appelle Qadiya? Ils se sont assis où? Et comment ils s'assoient? Et pourquoi ils s'assoient? Ils s'assoient, ça veut dire que ils n'arrêtent pas de gonfler les gens, de les exhorter au djihad, de leur dire qu'il faut aller en Palestine, en Tchétchénie, en Afghanistan, je ne sais pas où, alors qu'ils s'assoient, ils ne partent pas. Voilà ce qu'ils font. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, « Yis'aluna an anba'ikum, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. » Allah Ta'ala dit dans le Coran, ils demandent de vos nouvelles. Qu'avez-vous fait dans le djihad? Combien avez-vous tué, etc.? Mais s'ils étaient avec vous, s'ils étaient partis avec vous, jamais ils n'auraient participé à la guerre sainte, ou là ils n'auraient yani, participé à la vraie bataille. Ils seraient revenus au milieu du chemin, ou bien seraient cachés, ou bien. Donc le Qadiyadou, c'en est plein dans toute la France, la Belgique, surtout la Belgique, en Angleterre. Là où il y a les djihadistes, vous allez trouver que ce sont des Qadiyas. Il est assis derrière un micro, kafir, taout, kafir, Bouteflika, kafir, Khaddafi, kafir, l'autre kafir, du matin au soir, là, nos frères en Palestine, ils sont tués, ils prennent nos femmes, ils les violent, ils leur font ceci, cela, là, ils poussent les jeunes de 15 ans, 16 ans, qui sont là, les nouveaux convertis, qui viennent juste de connaître cet islam, ils les gonflent comme un ballon avec, ils les gonflent, là, et certains, les autres, ils partent avec la niya, l'intention que c'est pour le djihad, et là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent derrière leur PC, avec leurs femmes et leurs enfants, en train de se couler la belle vie, là, et de boire des jus, et de boire un thé chaud, et là, ils passent son temps assis sur sa chaise, derrière le PC, en train de gonfler, c'est d'exhorter les gens à partir au djihad, et au djihad, mais lui, il s'assoit. C'est pour ça qu'on les appelle Al-Qadiya. Vous les trouvez partout, dans les cafés, du matin au soir, en train de parler au djihad. Mais lui, il n'y va jamais. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, peut-être une autre fois, Inch'Allah Ta'ala, on va terminer les quatre ou cinq autres sectes qui restent. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك on va répondre inshallah ta'ala dans 2 ou 3 minutes c'est par les questions inshallah ta'ala on commence par celle et on rapport avec le cours inshallah ta'ala
matallah wa barakatuh le son est clair cher alhamdulillah shafakum Allah ya cher donc pour l'instant je n'ai aucune question en rapport avec le dars de ce soir cher le rappel. Donc je vais lire les 5 premières questions, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Voilà, je me suis converti à l'islam après 10 ans de mariage avec une kafira. Après 8 ans de vie commune, la vie avec elle est devenue quasi impossible. Elle déteste l'islam. Naam, Shir. Mais c'est, Inch'Allah, dans la première question, il y a du divorce, mais la question me porte, Inch'Allah. Jusqu'au jour où elle a commis zina pour me faire du mal. Je l'ai par conséquent divorcé. Le problème, c'est que peu de temps après l'adultère de ma femme, notre fille de 8 ans est tombée gravement malade. Diabète de type 1. Ma fille de 8 ans a perdu la foi. Donc j'aimerais deux petites questions, cher, en rapport avec cette question. Donc, on va la comptabiliser comme une seule. Y a-t-il un texte authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne un conseil ou un remède pour cette maladie en dehors de la graine noire? Pouvez-vous me donner un conseil pour expliquer à cette princesse de 8 ans, à qui j'ai toujours inculqué, dès son plus jeune âge, qu'Allah est le plus gentil et le plus miséricordieux, que c'est Allah lui-même qui lui a donné cette maladie, car aujourd'hui, elle est très en colère contre Allah. Deuxième question. Salam alaikum. L'autre fois, vous aviez lu ma question, mes chers n'avaient pas bien entendu, ça coupait, du coup, il n'a pas répondu. Pouvez-vous y répondre? Répondre à ma question. Ce soir, barakallahu fikoum. Est-ce que le rappel d'Allah en solitude a le même degré que le rappel d'Allah en groupe, car on sait que les anges cherchent ceux qui invoquent en groupe. Qu'en est-il de ceux en solitude? Lequel est le meilleur degré? Les anges cherchent-ils ceux qui invoquent Allah en solitude également? Cher, est-ce que vous vous rappelez de cette question? Moi, personnellement, je ne me rappelle pas de cette première question. Tfadal, cher.
Non, je me rappelle cette question, mais je ne l'ai pas comprise. C'est pour ça que j'avais dit à la personne qui avait posé cette question, maintenant je me rappelle, je lui avais dit de la reformuler. De la reformuler, non, parce que je n'ai pas comprise. Et, puisqu'elle ne m'a pas reformulé, c'est pour ça donc que je ne lui ai pas répondu. Elle a dit Wahda. Deuxièmement, pour la première question que tu viens de poser, il cherche quoi exactement? Yani, il a dit que... Attendez. Sa fille avait une maladie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala jura fiyana. Et il a dit que... Est-ce que je connaissais un remède à la maladie? Qu'est-ce qu'il a dit, yani? Il a cité, machab, la graine noire, ou là, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas bien compris la première question aussi, trop là.
Non, mais en fait, cher, il a demandé s'il y avait une parole authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en rapport avec cette maladie, ou les maladies en général, à dire. Et il a dit que sa fille était très en colère envers Allah par rapport à cette maladie qu'il lui a donnée. Le diabète de type 1. En fait, cher, il y a deux diabètes. Le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est le diabète qui touche les enfants. C'est celui qu'on a lorsqu'on est jeune. C'est pas le même diabète que l'on a plus tard. Est-ce que je continue, cher? C'est bon, Inch'Allah? Non. Donc la deuxième question, donc ce n'était pas celle-là, cher. Ça, c'était par rapport à la dernière fois. Donc sa question de ce soir, elle dit... Une dame demande si elle peut donner zakat al-mal à sa tante. Sa tante a des affis, sa tante a des enfants, mais pas de mari. Ses enfants travaillent, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Peut-elle donner à sa tante? Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-ce qu'une sœur peut-elle préférer de choisir l'un de ses frères comme mahram à la place de son père, en sachant que son père ne fait pas la salat, contrairement à ses frères? Jazakumullah khairan pour votre réponse. Donc là, je pense que la personne a plutôt voulu dire wali, cher. Parce que mahram, qu'elle soit musulmane ou pas, c'est son mahram, son père. Donc je pense qu'elle a voulu dire wali. Wallahu alam. Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pour commencer, je vous aime Allah Azza wa Jal, qu'il vous guérisse et qu'il vous accorde le firdaus. Voici ma question, cher. Un frère a fait la khutbah. La khutbah, demande de mariage. Il a présenté ses parents aux parents de la sœur en question et tout s'est bien passé, walhamdulillah. Est-ce que ce frère a le droit de parler à la sœur au téléphone en pré-mahram, c'est-à-dire qu'il appelle là quelques minutes pour prendre des nouvelles et le frère ou le père de la sœur est à côté de cette sœur? Cela est-il autorisé ou haram ou déconseillé? Barakallahu fikum, cher. Cinquième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, vous guérisse et vous récompense, cher. Y a-t-il des versets spécifiques pendant la ruqya à réciter, dans le cas des djinns amoureux ou sihr, etc.? Tfadal, cher.
Muslim. Pour la quatrième question. Celui qui demande est-ce qu'il peut parler avec au téléphone, il a dit qu'il avait fait la khitba. La khitba ici, c'est ce qu'on appelle communément les fiançailles chez les autres, ou bien la khitba, c'est-à-dire l'acte mariage. Les deux témoins, etc., Ils ont fait ce qu'on appelle, nous aussi, on appelle en général le Fatiha. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Wallahu alam cheikh, c'est juste écrit la khitba, demande en mariage. Donc le frère qui a posé cette question, Inch'Allah, je lui ouvre le PV, mon PV là est actuellement bloqué, je l'ouvre et j'attends qu'il donne des détails, Inch'Allah. Barakallahu fik de venir me voir. Tfadal cheikh.
D'accord, Inch'Allah ta'ala. D'abord, puisse Allah subhanahu wa ta'ala aimer. Yani toute personne qui m'a dit qu'elle aimait en lui, toute personne qui m'a dit qu'elle m'aimait en lui. Là. Et pour les personnes qui font des doigts pour la guérison, etc. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala yani, les guérir eux aussi et elles aussi et leur famille et tous les musulmans et croyants. Voyez. La première personne qui avait un problème avec sa fille et que sa fille était malade du diabète, et que sa fille maintenant avait yani, de mauvais préjugés sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais d'abord faire la petite remarque quand la personne a dit que le père Allah ta'ala alam a dit que yani, il essayait de dire à sa fille que Allah subhanahu wa ta'ala était gentil, était ceci, était cela. Non. Premièrement, on ne peut pas dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est gentil. On ne peut pas. Il n'y a pas dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est gentil. Ça, on ne peut pas inventer de nos têtes comme ça, qualificatif, et dire que Allah subhanahu wa ta'ala a tel et tel attribut qualificatif. Il faut que ça soit inscrit dans le Coran et la Sunna. Ou à la place de gentil, on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et que il aime ses créatures et que yani, il leur donne toutes sortes de ni'ma et comme ça. Non. Ensuite, pour la maladie, non, je ne connais pas, je ne sais pas quel est le remède du diabète. Surtout que Allah subhanahu wa ta'ala alam, le diabète, le cancer, le sida, ces sortes de maladies n'existaient pas autrefois. Maintenant, yani, c'est vraiment étonnant de trouver un enfant, hein, il a seulement quelques 2 ou 3 ans, il a le diabète. Subhanallah, Allah, c'est vraiment yani, étonnant. Donc, même si vous cherchez dans les livres comme Al-Huda, Zad al-Ma'ad al-Muqayyim, il a un livre, un tome spécialement, yani, les remèdes. Sunna al-Nabawiyya, yani, comment, yani, l'A'chad, comment prendre les herbes, etc. pour chaque maladie, mais c'est pas cité à l'intérieur du diabète. Ensuite, maintenant, puisqu'il y a, yani, du point de vue médical, il y a des médicaments, etc. Et que bien sûr, la personne prend des médicaments seulement comme sabab. Mais en mettant dans le cœur que seul Allah Ta'ala guérit, pas le médicament. C'est pour cela qu'une personne peut yani, ne pas guérir en prenant les médicaments. Et peut guérir sans prendre de médicaments. Mais puisque l'islam a demandé de prendre les sabab, moi je prends les sabab. Le plus important ici, c'est quoi? C'est que cet enfant maintenant yani, a des préjugés sur Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc cet enfant, il faut aller doucement avec lui, n'am, et yani, lui montrer quels sont les ni'mas que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, et que, surtout, insister pour que, lui faire comprendre que ça ne veut pas dire ma fille, puisque tu as cette maladie, que tu vas rester toute ta vie ainsi malade. Mais que, d'un instant à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, peut yani, enlever cette maladie. Et mieux encore, si avoir une maladie était quelque chose qui n'était pas bien, alors Allah Ta'ala n'aurait pas donné des maladies à ses meilleures créatures qui sont les messagers. Et lui dire, comment se fait-il que Ayyub alayhi salam est resté pendant 13 ans malade. 13 ans. pas un an, pas deux ans, 13 ans malade, et quand Allah Ta'ala a voulu qu'il se soigne, qu'il guérisse, il lui a tout juste dit, frappe avec ton pied, gagne le sol, et tu vas voir, il y a une eau qui va sortir, tu te laves, là, tu es guéri, bidnillah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala veut la guérison, juste un petit sabab, et tu es guéri. Et aussi, faut-il lui apprendre que, en étant malade, elle a cet avantage que celui qui est en bonne santé ne l'a pas. C'est quoi cet avantage? Premièrement, ça enlève des péchés. Et deuxièmement, si on patiente, on a des récompenses. Et celui qui est en bonne santé n'a pas cette faveur. Tu es assis, tu es alité, tu es dans ton lit ou là, sur ton lit, malade, et les péchés sont en train d'être annulés tant que cette maladie est avec toi. Et deuxièmement, si tu patientes, et tu ne dis pas pourquoi Allah m'a donné cette maladie ou là, hein, tu agrées, yani, Allah subhanahu wa ta'ala va te remplir de récompenses. Ensuite, troisièmement, c'est aussi important, même si elle dit des choses pareilles, c'est toujours un enfant. 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est toujours un enfant. Hein, petit à petit, inshallah ta'ala, en lui faisant la morale, en lui yani, lavant un peu son cerveau, yani, et en grandissant un peu, elle comprendra que ce qu'elle disait sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'enfantillage, et que sûrement elle regrettera d'avoir dit ces choses bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, même si ce qu'elle dit ne compte pas maintenant pour elle, c'est-à-dire ne s'écrit pas comme quoi c'est des péchés. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de puberté. D'ailleurs, maintenant pour rappel tout seul et rappel en groupe, la personne n'a pas encore formulé sa question. Pour la zakat à sa tante, on peut donner la zakat à sa tante si ils ont, si sa tante a quoi? Si sa tante a yani, on cherche le mot en français, yani, voilà, ne subvient pas, hein, elle ne subvient pas à yani, yani, pour payer le loyer ou là pour manger ou là pour s'habiller ou là, elle n'arrive pas, hein. Donc celle-là, elle rentre dans les pauvres, hein. Et elle rentre dans le mesakin, bien si elle a des dettes, dans ce cas, on peut lui donner la zakat. C'est pour ça que vous trouvez des gens, vous trouvez une personne qui travaille et qui n'arrive pas. Elle travaille, elle a, je ne sais pas, peut-être 300 euros par mois, peut-être, ou les 500 ou là. Mais peut-être, elle paye 300 euros peut-être pour l'appartement. Charles, telle chose 20 euros, telle chose 30 euros, elle dit, elle n'arrive pas. Et là, s'il demande la zakat, on lui donne, il n'arrive pas, même s'il travaille. Al-Muhim. La personne qui a dit, est-ce que je prends mon père comme wali pour le mariage ou bien mon frère, sachant que mon père ne fait pas la prière. Wallahu alam, la meilleure des choses, de prendre le frère, bien sûr, mais sans toutefois yani, faire des problèmes au père. Non. On peut dire au père, par exemple, trouver une astuce comme ça, pour lui dire qu'il charge son fils, c'est-à-dire son frère à elle, que ce soit lui qui fasse, par exemple, qui soit le wali. Puis voilà, mon père, par exemple, qu'est-ce que tu penses si tu donnais yani, la tutelle à X de nos frères, Mohamedoula, qui parle bien l'arabe, il dit ceci, là, laisse-le, c'est lui qui, Inch'Allah Ta'ala, va me marier, mais toi, Inch'Allah Ta'ala, tu es présent avec nous, etc. C'est comme ça qu'on fait, et non pas, yani, je vais me marier sans qu'il le sache, mon frère va le marier, et mon père ne sait pas. Hein, ensuite, un jour, on va lui dire, où est X? On lui dit, ça fait un mois qu'elle s'est mariée, elle est partie, je sais pas, toi, tu dors. Non, sûrement que, yani, aucun père n'acceptera cette chose, Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'autre personne, la quatrième, Muslim, tu ne m'as pas donné de réponse. Qu'est-ce qu'il voulait dire par khitba? Il voulait dire fiançailles? Ou là? Non,
fadba. Non, cher, donc il m'a répondu en PV. Il m'a dit, il a juste fait donc la muqabala, ensuite juste la demande de mariage avec les familles, mais pas le zawaj. Donc ça s'est fait juste avec la parole, une muqabala, il a demandé la sœur en mariage. Tfadal, cher.
Non. Puisqu'il a fait ce qu'on appelle muqabala, il est seulement allé la voir et elle l'a vu et maintenant je sais pas, ils lui ont donné la réponse qu'ils ont acceptée ou pas. Sinon pas donné de réponse, c'est clair que je peux pas lui parler, même si une étrangère. S'ils ont donné la réponse, non, et on dit oui, c'est toujours une étrangère pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Oui, ça veut dire c'est une promesse. Mais il est possible que demain, il aille, lui, yani pour confirmer des choses et officialiser, on lui dit non, justement, c'est passé des choses, etc. Et on l'a donné à une autre personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa femme. En disant oui, ça veut dire on t'a promis qu'on va te marier avec elle, c'est tout. Non, je ne suis pas arrivé à cette question. Donc, maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dit que, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen? Il dit, pendant la muqabala, c'est interdit à la femme, à la prétendante, qu'elle parle avec le prétendant. Subhanallah. Il dit, pendant la muqabala, c'est fait seulement pour qu'il la voie et elle le voit. C'est tout. Il dit, il n'y a pas, il s'assoit, il commence à discuter. Maintenant, si nous, yani, on laisse le prétendant parler quelques mots avec la prétendante, c'est parce qu'on n'a pas pris l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, et c'est parce qu'on a vu que il n'y a rien qui interdise, son père est avec elle, son frère est avec elle, ils ne se sont pas enfermés tout seuls dans une chambre, non, sinon ce serait clairement haram parce que ce sont des étrangers. Maintenant, s'il peut lui parler au téléphone, non, s'il peut lui parler au téléphone, après que ils ont dit oui, si peut-être ils le font une fois, pour une chose vraiment importante, et devant son père, là, j'ai vu que certains l'ont permis. Mais si, pour que ça soit une habitude, hein, et que, pour que, deux fois, là, deux fois, yani, il l'appelle deux fois le matin et deux fois le soir, et que, à partir de minuit, il va rester avec elle au téléphone jusqu'à Salat al-Fajr. Tout cela, c'est haram, puis haram, haram, puis haram, haram, puis haram. Non. Mais s'il parle juste deux mots devant son père, elle est pour une chose qui est importante, ce n'est pas pour des choses personnelles, des choses pour lui dire qu'il l'aime ou l'aime. C'est pas pour ça, non. Quelque chose de très important. C'est comme s'il avait, par exemple, une condition et qu'il a oublié. Il dit, je veux maintenant poser une condition. Est-ce que, par exemple, tu acceptes d'habiter avec mes grands-parents, avec mes parents, à point, ou là, mes grands-parents, ou là. C'est une condition vraiment importante. Devant son mahram, c'est permis. Mais, comme disent ceux qui ont permis cette chose, et que je vous l'ai dit, j'ai lu qu'ils ont permis, ceux qui ont permis, ils ont donné cette condition. Ils ont dit que ça soit vraiment important, et qu'ils fassent ça une fois ou là, deux fois pendant cette période. Pas yani, il téléphone matin et soir, qu'on prend maintenant certains frères avec certains soeurs. Enfin, pour les versets de la Ruqya, il n'y a pas des versets spécialement, des spéciaux, qu'il faut lire pour telle ou telle maladie. Mais, il a été, comment on dit, je ne dirais pas, par expérience, il a été yani, déduit que il a prouvé que certains versets, hein, font plus, si je puis dire, de pression sur le djinn ou là, sur le sihr ou là, que d'autres versets. Surtout, par exemple, les personnes qui ont du sihr. Si tu leur dis, par exemple, وَقَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Ou bien tu leur dis, par exemple, le verset qui dit ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت à la fin du verset. Hada aussi ce verset, il fait ébranler la personne subhanallah al-azim qui a du sihr. Sinon, il n'y a pas dans le Coran ou là dans les hadiths authentiques qu'il faut lire tel et tel verset pour tel et tel ruqya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal.
Là, Michel, pour la deuxième question, la question de la fois dernière, en fait, la sœur dit, elle demande en fait le rappel qui est fait donc en groupe et le rappel en solitude, seul, est-ce qu'il a le même degré ? Car elle dit, nous savons que les anges cherchent les personnes qui invoquent en groupe. Qu'en est-il de ceux qui sont en solitude ? Donc elle demande, qu'en est-il sur la recherche des anges par rapport à une personne qui invoque Allah en solitude ? Les anges cherchent-ils uniquement ceux qui sont en groupe ou alors également ceux qui sont en solitude ? Voilà, c'est ça sa question, cher. Inch'Allah, elle a été comprise. Tfadal, cher.
Le hadith qui dit qu'il y avait des anges, ou là il y a des anges qui cherchent les gens qui font, et ils le rappellent en groupe. Cela ne veut nullement dire que Yanni, donc celui qui fait le rappel, s'il est tout seul, qu'il n'a pas aussi de grandes récompenses. Mais c'est pour montrer, ce hadith-là, c'est pour montrer la fonction même de certains anges. Il y a des anges qui, leur fonction, c'est yani, faire tomber la pluie, d'autres faire yani, sortir des plantes, d'autres qui descendent avec la révélation, d'autres qui souffrent dans le corps, et comme ça, ou là, dans la cornéalique, et comme ça. Donc c'est pour montrer qu'il y a certains anges, voilà, d'arracher là, il y a certains anges qui, lorsqu'ils entendent du dhikr là, qu'il y a un rappel en groupe, il y a un dars là, ils assistent. Sinon, celui qui fait le rappel, quand il est seul aussi, bien sûr, il a beaucoup, beaucoup de grandes récompenses. Non, beaucoup de... Et rappelez-vous le hadith, qui le hadith authentique, Qudsi, hadith divin, si mon serviteur, yani, comment on dit Yad Koroni, si mon serviteur, disons, me cite ou là, quand il est seul, je le cite, pour le finepsihi, je le cite, m'invoque. S'il m'invoque, quand il est seul, je m'invoque. quand je suis seul, s'il m'invite, s'il m'invoque devant les gens, je l'invoque dans les gens qui sont meilleurs. Elle demande quel est le meilleur des deux. Les deux sont bien. Quand je suis seul, je n'arrête pas de faire du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min zalimin, et comme ça je n'arrête pas. Et si maintenant, l'occasion est venue pour faire un dars et assister comme ça en groupe, khlas, je fais partie de ceux qui font le rappel en groupe. Il n'y a pas yani, à dire, je ne fais pas le dhikr seul jusqu'à ce que je sois en groupe car c'est meilleur. Non. Quand je suis seul, je fais un seul. Quand je suis en groupe, je prends aussi les récompenses en faisant le rappel en groupe. Et n'oubliez pas que celui qui est seul, la faveur qu'il a, c'est le délice de la sincérité. Quand tu es en groupe, il est possible que c'est juste pour que les gens parlent de toi. Ils disent, cette sœur, mashallah, elle fait bien le dhikr, ou là, elle aime venir écouter les dars, ou là. Mais maintenant, étant seul dans ta chambre, personne ne t'oblige à faire le dhikr. Personne ne te voit ou là ne sait ce que tu es en train de faire. Seul ton créateur. C'est pour ça que c'est vraiment un délice de la sincérité. C'est pour ça que celui qui fait le dhikr quand il est tout seul, jusqu'au point à ce que au point où ses yeux larmoient, celui-là il fait partie des sept que Allah Ta'ala va mettre sous son ombre yawm al-qiyamah. Le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Pourtant, il était seul. Mais, il a fait le dhikr au point où il a larmoyé. Ses yeux ont larmoyé. Et, dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wadhkur rabbaka fi nafsika » et « Invoque-moi fi nafsika » dans ton nefs. Mais quand tu es tous, tadurru'an wa khifatan. Tadurru'an, en étant humilié, et khifatan. Khifatan, yani, presque en cachette. Et l'autre verset, idh nada rabbahu nida'an khafiya. Parlons de Ibrahim a.s. du quoi? Il a dit, idh nada rabbahu, quand il a invoqué rabbahu son seigneur, nida'an khafiya. D'une façon khafiya, yani vraiment, presque yani secrète, vraiment yani, disons, entre les lèvres, que personne n'entend. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse.
Barakallahu fikoum, cheikh. Donc je passe aux prochaines questions, sachant que j'ai reçu quelques questions en rapport avec le cours. Donc je les lis, inshallah. Première question. Salamu alaykoum. Peut-on dire que les chiites sont musulmans? Quels sont les propos des salafs à propos de cela? Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde la guérison ainsi que le firdaus. Que pouvez-vous nous dire sur la secte des Tijani? Comment leur faire la da'wah? Question suivante. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous guérisse, Cheikhana. Pouvez-vous rappeler les principes de Al-Qaïdiya? Est-ce que l'on peut dire qu'une personne qui parle du matin au soir du djihad, même si elle n'y va pas, que c'est un qaïdite? Barakallahu fikoum, cheikh. Et est-il possible d'avoir votre adresse mail, cheikh? Qu'Allah nous fasse miséricorde. Par rapport à l'adresse, Wallahu a'lam, mais étant donné que le cheikh est malade en ce moment, je ne pense pas qu'il prend le temps de répondre au mail. Il le dira, inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Comment expliquer à une personne qui débute dans la religion qu'il y a des groupes sans la choquer, afwan? Par exemple, nous savons tous que beaucoup débutent avec Tariq Ramadan, car il y a un discours qui attire, devons nous être directs. Quels sont vos conseils? Barakallahu fikoum, cheikh. Dernière question. Salam alaikum. Un frère va bientôt aller faire une omra. Peut-il faire cette omra pour un de ses parents décédés, sachant que c'est la première omra qu'il fait? Barakallahu fikoum. Tfadal, cheikh.
Non, j'ai pas entendu la quatrième.
Je répète, Inch'Allah. Comment expliquer à une personne qui débute dans la religion qu'il y a des groupes sans la choquer? Par exemple, nous savons tous que beaucoup débutent avec Tariq Ramadan, car il a un discours qui attire. Devons-nous être directs? Quels sont vos conseils? Barakallahu fikoum, cheikh. Tfadal, cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pour la première question, est-ce que les chiites sont musulmans? D'abord, je corrige, de préférence on ne dit pas les chiites, on dit les rafida, bien les rawafid. Vous comprenez pourquoi je vous l'ai dit? Nous, inshallah ta'ala, on est des chiites. Ça y est. Est-ce que les rawafida, ou est-ce qu'ils sont des musulmans ou pas? Disons que, yani pour être au milieu, parce qu'il y en a qui disent ce sont tous des kofars, il y en a qui disent non, ce sont tous des musulmans, et il y a muhaqqiqoun qui sont au milieu, qui ont bien cherché, les grands savants dans cette chose, et on dit voilà, il faut faire la différence entre leurs savants et les gens de la masse. Ils ont dit leurs savants sont des kofars et les gens de la masse ne sont pas des kofars jusqu'à ce que on établisse la preuve sur eux. Ces gens de la masse, c'est qui? Ça aurait pu être ma mère, ta mère, ma grand-mère, ta grand-mère, mon grand-père, ton grand-père, s'il aurait vécu là-bas ou là, aurait connu des rawafidoulés, il aurait dit comme eux. Pourquoi? Il dit n'importe quoi. Il n'a aucune science. Donc ceux-là, ils sont maintenant ici excusés jusqu'à ce qu'on établisse la preuve sur eux. Jusqu'à ce que quelqu'un qui a de la science, il leur parle, etc., et disent non. On dit toujours que Aïcha a fait la zina, etc. Quoi, ça dit, il est devenu kafir. Quant à leurs soi-disant savants, je dis soi-disant car il n'y a pas de savant dans l'égarement. Pour être un savant, il faut être de Esmo Jama. Donc leurs soi-disant savants et leurs grandes têtes, ce sont des kofars. Comme Hassan Nasrallah de Liban et Khomeini, les grandes têtes. Les savants disent que ce sont des kofars. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent la vérité. Ils ont des versets, ils ont des délits, ils sont quoi? Et ils ne reviennent pas en marche arrière. Non. Ou les Tijani, pour la personne qui a dit que elle connaissait des Tijani, ou elle connaissait un Tijani, et Yanni, c'est quoi Tijani, ou là, et comment faire avec eux. Tijani, c'est quelqu'un qui fait partie d'une des sectes du soufisme. Car le soufisme, ça comprend combien de sectes? Peut-être des milliers de sectes. Chaque région comme ça a sa propre secte. Et ils se regroupent tous pour être quoi? Pour être des soufis. Donc Tijaniya, ça fait partie de quelqu'un qui s'appelle, je crois, Ahmed, si je ne me trompe pas, Tijani. Et chacun, avant de mourir, il l'a dans son fils, et celui-là, avant de mourir, il l'a dans son fils. Et, comme j'ai dit, chaque région, ou chaque ville, ou chaque village, ou là, il a ses adeptes. Et bien sûr, quelqu'un qui est dans la Tijaniya, ce n'est pas facile pour lui ouvrir ses yeux et lui enlever la poussière qu'il a sur les yeux et le voile qu'il a sur le cœur. C'est un peu difficile, ça demande beaucoup de patience. Ce qui est malheureux, c'est que vous trouvez chez les soufis, comme Tijani Yahadi, Labriya et des centaines, comme j'ai dit, vous trouvez quoi? Vous trouvez des gens qui ont des doctorats. Non. Docteur en médecine, docteur en philo, docteur en psycho, docteur en ceci, cela, et il vient pour se mettre à genoux, pour embrasser le pied du cheikh, alors que il est peut-être, je ne sais pas, peut-être sûr, il est plus savant que ce cheikh-là du soufi. Non. Mais ce cheikh-là, on lui a tellement propagé sa réputation que les gens croient maintenant que khlas, c'est quelqu'un aigu, c'est quelqu'un qui a des prodiges, c'est quelqu'un qui connaît l'avenir, c'est quelqu'un. Ce qui est très malheureux, c'est que, par exemple, comme ici à Tlemcen en Algérie, il y a par exemple une grande secte comme ça du soufisme qui s'appelle, ça fait pas longtemps qu'il est mort, le grand chef. Une seconde, c'est pas Tijaniya, c'est. J'ai oublié. Pourtant, j'ai le mot est sur mes lèvres. Une seconde. Un mouim. Ça viendra, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le recherche, ce qui est malheureux, c'est que, autrefois, je me souviens, il y avait une personne qui venait de France. Une sœur. Peut-être une reconvertie, c'est sûr. Spécialement pour aller le voir, cette personne à Tlemcen, ce cheikh-là, pour lui demander s'il lui donnait l'autorisation de se marier avec tel prétendant ou pas. Et à chaque fois, bien sûr, il lui disait non. Elle lui disait, voilà, il y a quelqu'un qui s'affecte d'ailleurs, il réfléchit, il lui dit non. Et comme ça, je ne sais pas maintenant si elle s'est mariée ou pas, subhanallah l'azim, ils disent que s'il ne te donne pas la permission, tu ne peux jamais te marier. Et avant de faire la salat tout là, tu dois d'abord sortir sa photo de ta poche. Il faut l'avoir toujours avec toi. Sinon, tu n'es pas un adepte. Tu dois sortir d'abord sa photo, bien la contempler, lui demander qu'il accepte de toi la salat et les doigts, etc. Ensuite, tu dis là au bord pour commencer la salat. Sans parler, ce qu'il y a comme bida et comme. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et Mouhim, je dis à cette personne, si tu as une longue haleine et un long souffle, et tu as la sagesse, et tu veux beaucoup de récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala, patiente et endure avec cette personne. Et essaye de petit à petit lui apprendre la sunnah et de lui montrer quelles sont les fautes de cette secte, peut-être que tu seras un sebeb pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre la porte. Naam, musulman, si tu veux, inshallah ta'ala, on va fermer ici et aller là-bas. Naam, si tu veux, inshallah ta'ala, on va fermer ici et se rencontrer dans le salon. Tu as un salon ouvert en islam? Oui ou non? Naam. Oui, avant cela, on donne un peu de temps à nos frères et nos sœurs. Peut-être qu'inchallah ta'ala, ils vont yani, rentrer aussi dans notre salon pour le faire monter sans que on ne soit obligé de fermer celui-là. On leur donne inchallah ta'ala 5 minutes, yani, leur demandant inchallah ta'ala, puisqu'on peut rester sur les deux. Muslim, avant que j'oublie, je n'ai pas écrit la cinquième question. Non, je n'ai pas compris, je n'ai pas écrit. C'est quoi la cinquième question? Si tu pouvais la répéter, barakallahu fik.
Ah, donc comme le cher vient de le dire, en section islam, il y a une room qui est ouverte et elle ne fait pas partie des premières rooms. Donc on va vous demander, inshallah, d'être autant ici sur cette room, c'est-à-dire plus de 100 personnes, être également là-bas à plus de 100 personnes en section islam, avant que le cher continue de répondre aux questions. Donc je reprends la cinquième question, cher. Un frère va bientôt aller faire une Umrah. Peut-il faire cette Umrah pour l'un de ses parents décédé, sachant que c'est la première Umrah qu'il fait? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Yani, en tête de liste sur la section islam. Ansar, comment qu'elle s'appelle Ansar? Bon, je vais voir une seconde. C'est une salle de takfiri, bien sûr. Takfiri, à 100%, à 200%, à 300%. Donc, les listes en tête de liste, c'est quoi? C'est faire croire aux gens qu'ils sont sur la vérité. Ils disent, Masha'Allah, regarde la salle, elle est 100 ou la 150 ou là. Masha'Allah, vraiment ils sont dans le juste. Ce sont yani, vraiment des gens El Sunna. C'est pour ça que vous remarquez que ce que je vous dis ou ce que je fais, je l'entends aussi dans d'autres salons qui disent que attention, il y a tel salon qui est monté sur nos têtes. Il faut le faire descendre vite Natala. Et vite, yani, en quelques minutes. Ils descendent le salon, ils font monter leur sien Ibn al-Tala. Donc, dis-moi, muslim, dans quel statut on est Ibn al-Tala?
Alhamdoulilah, cher, nous sommes en tête de liste là, Inch'Allah. On a plus de 100 personnes. Alhamdoulilah. Tfadal, cher.
Donc, je disais. Pour le Tijaniya, je disais que yani, il fallait yani, patienter avec eux. Quand tu vois que toi tu ne veux pas revenir, tu ne peux plus patienter, etc. Place. Tu dis comme dans le sorti, et ça s'arrête là. Tu n'es pas obligé yani, de patienter plus que tu n'en peux. Pour le Qadiya, la troisième question, justement, c'est comme j'ai dit. Al Qadiya. Ce sont ceux qui ne partent pas au djihad et le prennent. Toute personne qui reste dans le café, derrière le PC, du matin au soir, à parler de djihad. Et ni participant fait partie des khawarij et des ta'diyah. Exactement comme le salon Ansar Mujahidouna. Si vous allez rentrer, vous allez trouver aucun d'eux ne parle au djihad. Mais du matin au soir, ils disent qu'il faut le djihad, et celui qui ne fait pas le djihad, il est ceci, il est pervers, il est kafir, il est comme ça. Mais aucun d'eux n'applique ce qu'il dit. C'est pour ça qu'ils sont appelés Al-Qa'diyya. Pour la personne qui a parlé de Umrah, pour que quelqu'un puisse faire une Umrah ou bien un Hajj en Islam, sur une autre personne, je vais à la place de mon père au Hajj ou à la place de ma mère ou la Umrah, il faudrait d'abord que je commence par moi-même. Sinon, ce n'est pas permis, bi-idnillahi, anodala. Il faut que la personne commence par elle-même, car c'est obligé. La Umrah pour l'homme et pour la femme, c'est une obligation pour ceux qui ne savent pas. Ils croient que le Hajj, c'est une obligation. Le Hajj, c'est un pilier. Mais la Umrah, c'est une obligation. Donc, je commence par moi-même, bi-idnillahi, ta'ala, j'applique sur moi. Ensuite, j'essaye de propager mon bien pour les autres. Enfin, pour la personne qui a dit que je lui donne mon email, je lui dis que c'est foncé, Inch'Allah ta'ala, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, de lire et encore moins de répondre. Et encore moins de répondre, bi'idhnillah ta'ala. Il faut attendre, Inch'Allah ta'ala, que cette période passe, bi'idhnillah ta'ala. Enfin, pour la personne qui a dit, comment débuter, ou là pour une personne qui vient de débuter et qui suit une personne qui n'est pas dans le minhaj, etc. Yani, comment faire? Est-ce qu'on lui montre directement ou bien est-ce qu'on va doucement avec lui? Ce qu'il faut savoir, Inch'Allah ta'ala, c'est que la personne qui vient de débuter, elle est en principe toujours très fragile. Une personne qui vient de débuter, elle est en principe toujours très fragile. C'est pour ça qu'il faut savoir comment, si c'est possible, de l'attirer jusqu'à ce qu'elle te fasse vraiment confiance. Jusqu'à ce que, si c'est possible, elle t'aime. Jusqu'à, si c'est possible, qu'elle sache que tout ce que tu dis est basé sur vraiment le Coran, la Sunna et ce que disent les savants, et que tu ne dis pas des choses pas faites. Et ensuite, quand cette personne classe maintenant, elle te fait confiance, elle t'aime, elle veut s'asseoir avec toi, elle te dit apprends-moi ceci, cela, tu commences à lui montrer les potes de X et Y, et ce qu'on dit les savants sur lui, etc., pour qu'il ne suive pas. Mais, si maintenant je suis dans une assise, par exemple, et que je viens de rencontrer des gens que peut-être je ne vais plus rencontrer au-delà, et que l'occasion me présenter de parler sur Tariq Ramadan ou la Tariq Kouissin ou la je ne sais pas qui, sans hésiter, je dis voilà celui-là, ce que je pense de lui, c'est que c'est un Moubtadi'a, voilà les savants ce que disent de lui, voilà les fautes qu'il a fait, voilà ceci, voilà cela. Car peut-être que on va plus se rencontrer, si je dis pas ça, peut-être que quoi, peut-être que je n'aurai jamais l'occasion de dire cela. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre une personne que je ne vais plus revoir peut-être et une personne qui, je sais que du matin au soir, peut-être elle est avec moi, ou bien qui travaille avec moi, ou là, qui étudie avec moi. Donc elle, la personne, j'essaie d'aller doucement avec elle pour ne pas la brusquer et pour ne pas la faire fuir. J'essaie de l'attirer, quand je sens que maintenant elle est prête à accepter de moi ce que je dis, elle me fait confiance, etc., je commence à lui critiquer les personnes qui, pour elle, sont des personnes, astaghfirullah, presque vénérées. Quand je vais vous donner, vous citer une fois une expérience qui m'est arrivée personnellement, peut-être que, inshallah ta'ala, ça va vous aider un peu aussi dans la da'wa, inshallah ta'ala. Et vous m'écoutez, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Une fois, j'ai déménagé pour aller habiter, pas dans une petite ville, dans un petit village. Dans un petit village, vraiment, yani, loin d'Asie à l'ouest. Là-bas, là où j'avais la maison où j'allais habiter, alhamdoulilah, il y avait juste 50 mètres, une petite mosquée. Une petite mosquée, mashallah, yani, vraiment, yani, une tente. Hein, une grande tente comme ça, mais mashallah, yani, les gens du quartier ont fait ce qu'ils pouvaient. Yani, ils achètent des tapis, ceci, quelques livres, etc. Ouais. Mais, arrivé là-bas, j'ai remarqué que les chebabs là-bas, les jeunes qui venaient tout le temps à la mosquée, là, étaient de la tendance des frères musulmans, frères musulmans. Là. Et que, vous avez même un chef que je voyais tout le temps avec un costume, hein, sans barbe ni rien, bien sûr. Si je me rappelle, il n'avait pas de barbe, sinon une petite barbe peut-être. Là. C'est que c'est lui qui dirigeait, etc., même si on n'est pas de cours. Donc, avec cela, il y a né, comment avoir sa place avec eux dans la mosquée, ce n'est pas une chose facile, là. Comment arriver à peut-être, yani, même si c'est possible, leur donner des cours dans le hadith. Donc là, pour arriver à leur donner des cours dans l'aqidah, vous comprenez. Voyez. Donc, j'ai commencé à faire leur connaissance hors de la mosquée. On se rend compte dehors. Salam alaikum, comment ça va, alhamdoulilah, la basse presse aussi là. Ils viennent voir moi, là, je suis venu d'où, d'Algique, à l'époque j'avais une licence. J'ai une licence en sciences islamiques, et mashallah, ceci, cela, là. Non. Ils commençaient donc à yani, vouloir un peu me côtoyer. Non. Vouloir me côtoyer, vouloir. Et bien sûr, et ce serait très dangereux de leur dire, par exemple, les Juan ou le Hassan Benna ou là, c'est vraiment yani, la catastrophe. Un mohim. Alors, quand ils ont commencé à bien me connaître, un mois, deux mois, trois mois, je leur ai jamais parlé ni du minhaj ni rien, ils ont dit, pourquoi tu ne nous fais pas, par exemple, yani, une petite halqa dans la mosquée. Là, j'ai dit, si je fais une halqa, je fais quelque chose, yani, en rapport avec le hadith, ou là, quelque chose, je veux dire, pas pour tout le monde, les gens de la masse, mais pour talabatul ilm, c'est tout. On va faire, par exemple, la science du hadith. Et moi, en choisissant la science du hadith, j'avais un but loin, mais très précis. Car si je dis, par exemple, laissez-moi faire aqida, je suis sûr que, déjà, leur chef va leur demander, c'est quel livre qu'il fait. Il fait tahawiyya, il fait c'est dangereux, c'est wahhabite, c'est ceci, cela. Mais la science du hadith, elle dit, que tu sois ikhwan, que tu sois mu'tazila, que tu sois, hein, c'est bien d'apprendre et de connaître c'est quoi le hadith sahih, c'est quoi le da'if, c'est quoi le hasan, c'est quoi le hasan li ghayrihi, li dati, c'est quoi le mursal, le maqtou, le muqati, le mu'dal, et comme ça. J'ai commencé donc à leur faire. Je vais arriver le témoin du cours, hein, pourquoi j'ai dit tout ça. J'ai commencé donc à m'imposer en faisant une petite halqa à 6 ou 7 personnes, peut-être 10, sur la science du hadith. C'est quoi en fait le but? Pourquoi je veux la science du hadith? Pour leur apprendre quoi? Que pas chaque fois que vous entendez quelqu'un dire le prophète Hassan a dit, que ça veut dire que c'est un hadith authentique. Non. Il y a des hadiths faibles, il y a des hadiths mursels, il y a ceci, cela. C'est pour ça que, yani, on est là pour apprendre la science du hadith. Et, à chaque fois, je vous donner des exemples. Bon, prenez tel hadith. Son mot tasekho, très connu. Baïf, prenez tel hadith. La propreté fait partie de l'iman. Baïf. Prenez le hadith, je ne sais pas quoi. Non, les hadiths les plus connus. Baïf, baïf, baïf. Je suis étonné. Ça, baïf, 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 baïf. Après, subhanallah al-azim, ça leur a beaucoup plu. On dit subhanallah al-azim, on était dans plein de hadiths baïf. Je leur dis naam, Allah, on est tous plein de hadiths baïf. C'est pour ça qu'il faut connaître la science du hadith. Donc, en leur apprenant qu'il y a le hadith sahih, il y a le baïf, donc ils ne vont pas prendre à chaque fois qu'on leur dit, le prophète a dit. Donc, c'est un peu taquiner qui? c'est un peu fasciné leur chef. Leur chef, avec celui qui porte le costume, s'il va leur dire Qala Rasulullah, ils vont lui dire arrête, attention. Qala Rasulullah, il faut prouver que c'est un hadith sahih. Où tu as su toi que c'est un hadith sahih, non? Et comme ça. Ils ont commencé, masha'Allah, à apprendre les hadiths et à vouloir demander. Et à chaque fois qu'on leur disait des hadiths, ils disaient aux gens non, c'est un hadith d'Aïf Damir. Ça a commencé à marcher, masha'Allah, masha'Allah. Juste au jour où, voilà, on parlait de quoi? La fragilité de qui? De quelqu'un qui est débutant. Là, jusqu'au jour où, une fois, je leur ai dit écoutez, moi je dois monter sur Alger une semaine ou les 10 jours. Je ne peux pas laisser comme ça la maison vide. Alors, j'ai décidé de taper d'un seul coup 2 oiseaux. Que pensez-vous si, Yannick, je vous donne la maison, vous restez ici? D'un côté, pour moi c'est bien, il n'y a pas de voleur qui risque de venir. Pour vous c'est bien, la Mektaba, la bibliothèque que j'ai, tous les livres que j'ai, Yannick, vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, Yannick, les, comment on dit, les utiliser et apprendre, Inch'Allah, Masha'Allah Ta'ala, tout ce que vous voulez. Donc il est très content, Masha'Allah, Barakallah, ok. Surtout que à l'époque j'avais une Mektaba vraiment grande. Et je suis parti à Alger. Quand je suis revenu après 10 jours ou 12 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose vraiment étonnante. Naam. Et donc les 5 ou là, bon, ils sont tous partis, ils ont laissé un seul dans la maison. Car ils ne pouvaient pas tout fermer, bien sûr. C'est une responsabilité que j'aurais laissé. Mais ils ont laissé un seul. C'est-à-dire, wahda. Deuxièmement, même la personne avec qui j'ai qui trouvait, qui m'a rendu les clés, elle était très froide. Ah. Salam alaikum, salam, ça va, ça va. Allez, salam alaikum, il est parti. Subhanallah al-Azim. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré les 4 autres ou là, les 5, la même chose. Ilm al-Hadith, personne ne vient. Là, c'est terminé, ils ont décidé, ils ont ceci, ils ont... Subhanallah al-Azim. Très fragile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Muslim, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Pendant mon absence, parce que l'un de ces 5 personnes, après une semaine ou un mois ou là, je l'ai rencontré et il m'a fait des aveux. Moi-même, quand je me suis absenté, ils ont commencé à lire les livres et à essayer de voir tout ce que j'ai comme livre avec bonne intention. Savoir quels sont les livres que j'ai, qu'il faut étudier, etc. Ils sont tombés sur un livre qui s'appelle quoi? Qui s'appelle comment? Un livre de qui? De Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah. On m'a adraka, et qui vous dit qui c'est Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah. Et que dit ce livre? Si c'était Ahkam al-Janaiz ou bien Sahih al-Jami'a, là, ça n'a pas d'importance. Mais sur quel livre ils sont tombés? Muslim, est-ce que tu sais sur quel livre ils sont tombés? Sur quel livre? Dis-moi oui ou non, tu sais ou tu sais pas. Allahu alam, barakallahu fik. Cheikh Al-Albani a écrit un livre spécialement sur l'une des plus grandes têtes des Ikhwan Muslimin qui s'appelle Al-Bouti, un Syrien qui vit jusqu'à présent et de temps en temps il passe à la télé. Al-Bouti, Ramadan, Saïd Ramadan Al-Bouti. Une des grandes têtes des Ikhwan Muslimin. Ce Al-Bouti, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un livre dans lequel il a dit Al-Madhabiyya, le fait que tu n'es pas, que tu ne sois pas dans un madhab, le fait que tu ne sois pas malikite, ou bien shafi'ite, ou bien hanbalite, ou bien hanafite, il a dit, c'est la plus grande bid'a qui risque de faire exploser cette umma. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement être dans un des 4 rites. Alors Cheikh Al-Albani lui a répliqué en écrivant un livre, le titre c'est à peu près Balalat, les égarements de l'beauté. Les égarements de l'beauté. Hein? Et il a écrit un livre comme ça, pas très grand, 40-50 pages, il a montré tous les égarements de l'beauté. Maintenant, on me dit que les takfir sont là-bas à la tête en islam. Donc, c'est pas la peine à chaque fois de supplier les gens, il faut aller là-bas. Muslim, ferme carrément, on va se rencontrer là-bas, dans ton salon, inshallah ta'ala. On termine l'histoire. حانك لهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فهم لصالة السلام عليكم ورحمة الله. المهم donc quand ils ont lu ce livre, quand ils sont tombés sur ce livre, ils ont été choqués. Ils ont dit comment un savant comme Ramadan Bouti, celui-là, yani, il le critique, etc. Donc moi, je fais partie de ce Cheikh Al-Albani, etc. Que, bien sûr, donc, ce que je dis, etc., c'est grave. Et, bien sûr, ils n'ont plus accepté ce que je disais. Donc, elle dit, tout ça, c'est pour vous dire la gravité de ne pas aller doucement avec les gens. Ça coupe. Qu'est-ce qu'on fait donc? Muslim, si ça coupe, je sors et je reviens, Inch'Allah. Muslim, Inch'Allah.
Madame chère, dites-moi déjà, est-ce que ça coupe chez vous lorsque je parle ou est-ce que le son est correct? Est-ce que ça coupe ou est-ce que le son est correct, Inch'Allah? Ça coupe un peu, Naam. Est-ce qu'on enferme chérie et on réouvre directement? Est-ce que l'on ferme et l'on réouvre directement, cher? Est-ce que c'est bon, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc je vais lire les cinq prochaines questions le temps que les frères et sœurs reviennent sur la room. Assalamu alaikum, cher. Ma question est celle-ci, bien là. Doit-on faire les ablutions pour lire le Coran, moitié arabe et français? Salam alaikum, cher. Doit-on faire les ablutions lorsqu'on lit le Coran en arabe français, sachant qu'il n'y a uniquement la partie française qui est lue? Mais je tourne quand même les pages en arabe de ma main. Quel est l'avis le plus prudent et le plus juste, Barakallahu fikoum Yachir, ainsi qu'aux admins? Question suivante. Une sœur veut sortir la zakat, mais ne sait pas comment faire, sachant qu'à chaque mois, il y a une rentrée d'argent qui est supérieure à ses dépenses. Par exemple, si elle veut sortir la zakat pour février, doit-elle regarder... le montant du compte en février de l'année d'Azakat par rapport à cette somme. D'autre part, peut-elle donner cette zakat à son frère de sang qui est lourdement endetté? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'invoque Allah le Tout-Puissant de vous récompenser par la plus haute place du paradis et de vous guérir d'une guérison parfaite. Ma question concerne la aqida. Peut-on répondre à Zawajel sur son trône, ou bien cela ne suffit pas? Doit-on obligatoirement lui dire au-dessus des cieux? Jazakumullah khairan shir pour votre réponse et salam à votre épouse. Question suivante. Allah vous préserve ainsi que vos proches. Je demande Allah. Qui vous récompense par la meilleure d'entre mes deux épouses, vous ne les accordez qu'à elle. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah wa shafakum Allah. Par la science, ne se proclame d'aucun minhaj, il écoute n'importe quel chouyour, qardawi, etc., sans savoir de quel minhaj ils sont. Lorsque je lui parle de Aqidah et de la da'wa salafia et ce que l'on doit éviter, il s'énerve et me dit que c'est trop de mise en garde, etc. Il est convaincu que l'on peut prendre de tous, car chez chacun, il y a une part de vérité. Nos conversations sur le din finissent toujours par une dispute. Donc j'ai décidé de ne plus lui parler de Aqidah. Il ne va pas à la mosquée aux heures de prière, mais il fait ses prières à l'heure à la maison. Il me respecte beaucoup, mais il est souvent la cause de ma baisse de foi. Et c'est vraiment insupportable parfois. Que me conseillez-vous, Shir? Wa jazakumullah khayran. Tfadal, Shir.
Et saute. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pour le Coran arabe français, comme a dit Cheikh Ben Hussein rahimahullah, il a dit, si il comprend seulement quelques versets en arabe, mais la plupart c'est en français. Il a dit, dans ce cas, c'est pas la peine de faire le wudu. Il a dit, mais s'il y a le même nombre, comme il y a autant de français, il y a des versions en français, il y a autant d'arabe. Ou alors, il y a des versions en arabe plus que les versions en français. Dans ce cas, il a dit, c'est plus recommandé de faire l'ordre. C'est plus recommandé de faire l'ordre. Donc, la sœur demande l'avis le plus prudent. Le plus prudent, c'est de faire l'ordre, sans dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire, pour sortir des problèmes, des divergences, et respecter, le Coran en arabe, puisqu'il y a tout le Coran en arabe dans ce livre. Il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, faire le wudu. Pour le donner la zakat à son frère, on la donne à son frère s'il a des dettes. On la donne même à son père s'il a des dettes. Alors que normalement, la zakat ne se donne pas du fils au père. Mais si c'est à cause des dettes, on peut la donner. Et elle a dit qu'elle ne savait pas que voir ou comment voir. Regardez, j'ai une telle somme, j'ai une certaine somme. Disons d'abord le seuil, Nessab, c'est combien? En Algérie, c'est je crois 37 millions cette année. 37 ou la 33? Un moyen. C'est combien chez vous le seuil pour que je puisse répondre, Inch'Allah Ta'ala? Dites-moi, quelqu'un connaît le Nessab, le seuil, en France ou là vous ne connaissez pas? J'attends la réponse. Environ 85 euros, c'est pas possible. 85 euros, c'est pas possible. Non, ça ne peut pas être. C'est l'équivalent de 85 grammes d'or, mais ce n'est pas 85 euros. Est-ce que quelqu'un connaîtrait le seuil? Donc comment vous faites pour la zakat si vous connaissez pas le nissab? Je ne parle pas des grammes, cher Mohamed. Je parle de l'euro. C'est combien il faut avoir d'euros pour sortir la zakat? 2300 ou la on va supposer. On va supposer que le nissab en France, c'est 2300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas 2300 euros n'a pas de zakat à sortir. Supposez maintenant que j'ai une somme de 2500 euros. C'est-à-dire que j'ai atteint le seuil. Ça, ou la khadina, pas la peine de dire 2500, disons 2300. J'ai maintenant chez moi, dans mon coffre, ou là à la banque, je ne sais pas où, 2 300 euros. À partir du moment où j'ai 2 300 euros, je dois savoir quel mois on est et quel jour. Quel mois. Et le mois en arabe. Est-ce qu'on est au Safar, est-ce qu'on est Muharram, est-ce qu'on est Naam. Et quel jour. Saha. Maintenant, les 2 300, j'ai atteint 2 300, supposons le 14 Safar, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est 14 Safar. Supposons 14 Safar, c'était 2 300 euros. Maintenant, cette somme, qu'elle augmente ou qu'elle diminue, ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la prochaine fois, la prochaine année, le 14 Safar, est-ce que j'aurai toujours 2 300 ou la j'aurai pas. Donc j'attends le 14 Safar prochain pour voir. Si j'ai 2 300 et plus, je fais zakat. Si j'ai 2 250 ou la 2 280, donc il faut voir après une année est-ce qu'on a toujours le seuil ou on l'a pas. Et on commence à compter le seuil du jour où on a eu le seuil. On commence à compter une année. Ça arrive au zakat. La réponse. Est-ce qu'on dit de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est sur son trône, ça suffit ou là ça suffit pas? Ça suffit. Non, ça suffit. Comme lui-même, Azza wa Jal, il a dit dans le Coran. Ar-Rahman ala l'arsh stawa. Pour la deuxième épouse, non, qui vient pour être avec son mari et l'autre, la première épouse, est-ce que je vais passer toutes les nuits carrément avec elle ou bien partager avec l'autre? Cela dépend comment on s'est mis d'accord, c'est-à-dire comment je me suis mis d'accord moi et mes deux épouses. Si je me suis mis d'accord avec la première et l'autre que celle-là étant loin, donc si elle va venir, je vais lui rattraper ses jours ou ses nuits. D'accord. Mais si elle-même, elle a reconnu, elle a dit, moi étant loin, je donne mes jours, khlas. Je donne mes jours à l'autre. Ou l'autre a dit, elle a dit, puisqu'elle a allé loin, donc, khlas, elle a perdu ses jours. Et que l'autre a accepté, elle a dit, khlas, étant loin, j'ai perdu mes jours et j'accepte. Maintenant, si elle va venir, ils vont partager une nuit, et comme ça. Sauf, bien sûr, si, comme j'ai dit, il y a eu un accord au préalable, que, comme quoi, lorsqu'elle va venir, je lui rattrape ses jours. Ou bien l'autre, elle a mis comme condition, quand je viens, tu dois me rattraper mes jours. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Allah Azza wa Jalla Adam. Pour la dernière question, elle a dit que son mari n'apprenait pas la science, etc., et que des fois, il était lui-même la source de la baisse de sa foi, et que malgré cela, il avait un bon comportement, il était gentil, etc. Je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tant que ce mari est gentil, tant que ce mari ne te fait pas de problème, tant que ce mari n'est pas contre toi et t'es savant, tant que ce mari te laisse apprendre la religion. Non. Maintenant, à chaque fois que vous parlez, il y a des divergences. Khlas, je n'ai plus obligé de parler dans le din ou là dans la aqidah ou là. On n'est plus obligé. On parle seulement des enfants, de leur éducation, ou là on parle de où est-ce qu'on va habiter, qu'est-ce qu'on va acheter, ou là où est-ce qu'on va aller pendant les vacances. Pourquoi? Parce que là, il y a l'impasse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cela que je vais commencer à chercher le divorce, etc. Alors que toi-même, tu reconnais que c'est quelqu'un de mashallah. Ensuite, pourquoi je te dis cela? Car il te laisse, alhamdoulilah, apprendre comme tu veux et dire que c'est lui la source de la baisse de ma foi, ce n'est pas toujours juste. Pourquoi? Parce que aucune personne ne dépend de l'autre. Moi, si j'aime ce din et j'aime apprendre et je donne beaucoup d'intérêt à ce din, je suis soucieux d'apprendre, ne m'intéresse ni ma femme, ni mon père, ni mon grand-père, ni mon oncle, ni hein, qu'il soit yani, avec moi ou qu'il soit pas. L'essentiel, moi je lis, moi j'étudie, moi j'ouvre mes livres. Et l'essentiel aussi, c'est qu'il me laisse. Il ne me dit pas, non, pourquoi tu apprends, pourquoi ceci, je n'est pas un savant, il fait des machèques. Donc, je dis bien au contraire, hein, bien au contraire, hein, il est possible que tu dises, il faut que je me marie avec quelqu'un, mashallah, talib in, et qui n'arrête pas du matin au soir, parce qu'on parle de religion, et que peut-être, du matin au soir, il y aura des disputes. Je connais beaucoup de couples, ils lisent de talib in, mais ils ne peuvent pas, ça ne marche pas ensemble. Des fois, au point où je dis, alhamdoulilah, yani, qu'on soit pas les deux talib in. Des fois, ça ne marche pas. Non. Lui, il a son avis, elle a son avis. Lui, Ben Baz a dit, elle, Cheikh Ben Othaymin a dit, Cheikh Al-Bani a dit, et c'est des disputes du matin au soir. Alhamdoulilah, qu'il me laisse tranquille, il ne peut pas apprendre là, c'est pour lui. C'est lui qui va être questionné demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, il me laisse la voie libre, et j'apprends. Peut-être, ça va vous étonner, si je vais vous dire que moi aussi, ici dans la maison avec Oumu Berger. Non. Chacun, yani, elle, beaucoup plus occupée par ses enfants, par sa maison, par le ménage, par là, que par le haine. Mais jamais je me suis dit, donc pour cela, là, ça y est, on va s'arrêter, on va la divorcer. Elle, même si tu discutes avec elle, elle va te dire, moi, je suis pas une calibette de haine. Au début, avant de me marier, certes, elle apprenait ceci. Une fois mariée, les enfants, là, c'est très difficile maintenant. Même si tu voulais lui apprendre quelque chose, elle te déclasse ma tête, yani, comment on dit, elle ne retient plus. Tellement les enfants, tellement les problèmes, tellement les maladies, tellement tout ça. Est-ce que, yani, ça va être une entrave pour moi de dire, donc, puisqu'elle n'apprend pas, elle ne lit pas, là, moi aussi, donc j'arrête. Non, hier, Oya, elle sait que c'est obligatoire, maintenant elle veut ou elle ne veut pas, elle peut ou elle ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala va lui poser des questions yom al-qiyama. Al-Muhim, voilà pour les 5 questions. Je vois si tu en as d'autres, inshallah ta'ala.
Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah Cheikh. Une association organise une journée caritative afin de réunir les fonds nécessaires pour que leur projet se réalise, Inch'Allah. Cette journée se déroulera en plusieurs parties. Première partie, déjeuner entre sœurs de 11 à 13 heures. Deuxième partie, vente avec les meilleures commerçantes de 14 à 19. Donc tout cela contre sœur Inch'Allah. Ma question est, quels sont les moyens licites pour récolter des dons pour ce projet, parmi ce qui a été cité avant, à savoir faire un repas, cela est-il permis? Barakallahu fikum, qu'Allah vous guérisse. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, shafakum Allah. Il y a un étudiant de Cheikh Arnoté qui fait des cours de dîme d'arabe et de coran. Nous sommes quelques frères à les suivre, seulement nous avons des doutes sur ce frère. Il a dit une fois, entre autres, que Hassan al-Banna était un réformateur. Il l'a cité comme il a cité Ibn Taymiyyah, rahimahullah. J'ai arrêté les cours de religion avec lui et de Coran. Est-il permis de suivre des cours d'arabe avec lui? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum shir, hayakum Allah. Pouvez-vous m'expliquer le verset 27 de Sourate Al-Imran? Donc, cher, si vous avez le Coran, Inch'Allah, verset 27 de Sourate Al-Imran. Shafakum Allah, wa jazakum Allah khayran. Question suivante. Salam alaikum. A-t-on le droit de se faire circoncire dans un hôpital dans un pays mécréant? Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shafakum Allah ya Cheikh, dit-on alayhi salam seulement derrière Jibril ou tous les anges? Tfadal Cheikh.
musulman. J'ai pas entendu la question de la circoncision. Circoncision. C'est quoi la question, Fadal?
Non, pour faire simple, cher, le frère demande tout simplement, est-ce qu'il est possible de se faire circoncire dans un hôpital de mécréants? Fadal, cher.
Non, pour la réponse, Inch'Allah ta'ala. Pour la première question, il faut d'abord que je sois sûr que j'ai compris la question. Ça parlait d'une sorte d'excursion, comme ça, des sœurs vont aller en excursion, ou bien une journée de trois jours, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était permis de faire une récolte pour faire un repas commun? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est ce que j'ai compris ou là il y a autre chose? Tfadal.
Donc en fait, chérie, ils vont faire un repas. Et je pense que le repas, en fait, ils vont. Je sais pas si c'est une vente, par exemple, de sandwich, etc. Et l'argent qu'ils vont récolter avec ça, c'est pour l'association. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. La personne qui a posé cette question, Inch'Allah, qu'elle vient de me voir en PV, Inch'Allah, pour me dire si c'est ce qu'elle a voulu dire. Tfadal, cher.
Pour l'étudiant chez lequel les frères assistaient, et que cet étudiant, entre autres, ce qu'il a dit, c'est que Hassan Benna était un réformateur. Non. Si cette personne ou cet étudiant a dit cette phrase, il ne faut plus assister chez lui. Car il vante, hein, et il fait des éloges à Hassan Benna. Il dit de lui que c'est un réformateur. Donc c'est quelqu'un qui est Masha'Allah et qu'il faut suivre. Si c'est un réformateur, il faut lire ses livres et suivre aussi son minhaj. Sinon, c'est pas un réformateur. Donc celui-là, c'est un ikhwani à 100%. Ou alors caché. Ou alors, qui vient tout juste d'ouvrir ses yeux sur le vrai minhaj, mais ne l'a pas encore compris. Et il est loin. Pour ça que, il faut éviter cette personne bidna ta'ala. Ou la personne qui dit se circoncire chez les mécréants. Ce n'est pas important. L'essentiel, il y a une petite chose à enlever. Des parties intimes. Cette chose que tu l'enlèves chez un muslim ou chez un kafir, ça ne change rien. L'essentiel, tu as enlevé cette chose qu'il fallait enlever. Non. Que ce soit un musulman qui te fasse l'opération, que ce soit un kafir. On voit celui qui connaît mieux. Si maintenant le kafir n'a pas d'expérience en cette chose, il n'a jamais fait cette chose, il vaut mieux voir un musulman. Mais si le kafir a l'habitude de circoncire les convertis, il sait comment ça se passe, etc., il n'y a aucun problème, bi'idnillahi azza wa jal. Enfin, pour Jibril alayhi salam, on peut la dire, pour Jibril et pour les autres. On peut même la dire, pour toute personne. Si on parle d'une personne, tu dis alayhi salam, dans le sens, c'est une doua, même si cette personne, c'est une personne commune, et tu n'exagères pas d'un côté en disant ça à chaque fois, et de l'autre en la laissant spécifiquement à une seule personne. Comme les Rawafid disent, par exemple, Ali alayhi salam, Fatima alayhi salam, les autres non. Dans ce cas, c'est interdit. Mais si on la propage pour tout le monde, et qu'on le fait avec une bonne intention, la doua, c'est permis, comme disent les savants. Quel est le délit? Vous savez quel est le délit de dire alayhi salam en disant Al-Bani alayhi salam a dit telle chose? Vous savez quel est le délit? Délit très clair. Vous connaissez tous, mais vous ne savez pas que c'est un délit. Vous connaissez tous le délit. Je vais vous le dire mais peut-être personne de vous ne sait que c'est un dalil. Quand vous faites le tashahhud, vous dites, entre autres, hein, chacun a sa méthode, tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah. Pour ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Rappelez-moi, j'ai oublié. Rappelle-moi, musulman. طيب جسكا شكون نايف وندي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صح طيب كذا طيب السلام علينا لو دليل سي كوا السلام علينا السلام علينا اي على عباد الله الصالحين اي pour toutes les personnes qui sont pieuses on dit salam donc tu as dit en faisant le tashahhud tu as dit salam alayya Aleyna, Aleyna, c'est pour nous tous. Donc toi-même, tu as dit salam ou Aleyka pour toi. C'est comme si moi je m'appelle Chalabi, je dis Chalabi alayhi salam. Ça veut dire j'ai dit salam sur moi, Aleyya. Donc voilà, inshallah ta'ala, la réponse.
Naam, cher, la personne pour le la réunion entre sœurs. Elle n'a pas répondu, donc elle n'est peut-être plus présente. Donc la personne qui a posé la question sur les dons, si elle est présente, je lui demande de venir me voir, Inch'Allah. Donc question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aimerais savoir comment un gouverneur est élu selon la charia. On sait que dans la démocratie, c'est le peuple qui vote pour élire son président, mais comment cela se passe-t-il selon les règles de la charia? Qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Question suivante. Assalamu alaikum. Je suis né à l'étranger. On m'a emmené en France très jeune avec une autre famille. J'ai eu de faux papiers. Je suis au lycée. La mère de la famille de France, donc la famille adoptive, est ma seule responsable dans les papiers. Si je peux aller étudier la science, dois-je y aller ou dois-je retourner auprès de ma vraie famille, d'abord que je n'ai pas vu depuis 12 ans? Est-ce que j'ai des péchés lorsque je suis contraint de mentir sur mon identité pour éviter les problèmes avec la famille de France et la police, et on m'a donné comme prénom de naissance Aboudou? Puis-je m'appeler Abdullah ou autre? Faut-il que je rentre à l'étranger avec ma vraie famille, même si je n'ai pas assez de moyens et que je connais presque personne, donc je ne sais pas si je pourrais pratiquer bien la religion? Quel est mon cas par rapport au hadith très menaçant sur les liens de parenté? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya shir. Hafizakumullah wa hayakumullah. Qu'Allah vous donne la possibilité de me répondre. Donc ma question est la suivante. Je suis musulman, walhamdulillah, et je veux me marier avec une musulmane, bien évidemment, mais pour le moment, je suis étudiant, et j'ai déjà 20 ans, walhamdulillah, et je suis dans une école mixte, qu'Allah me préserve du blâmable, ainsi que vous, cher. Donc j'en ai parlé à ma mère, car j'ai plus de facilité de parler avec elle qu'avec mon père. Mais elle me dit de terminer mes études, c'est-à-dire d'avoir mon diplôme, inshallah, dans 5 ans, ou plus. Et moi, je ne veux pas me marier à 27 ans. Et je fais des duas pour qu'Allah apaise leur cœur afin qu'ils comprennent ma situation et la sunna. Donc, comment dois-je faire face à cela, Yashir? Passez le salam à notre cher Farkous, Hafizallah, de ma part, si vous pouvez. Question suivante. Salam alaikum, Shir. On m'a dit que l'histoire de l'araignée qui a tissé la toile dans une grotte pour cacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vraie. Dernière question. Salam alaikum, cher. Je voudrais faire la hijra avec mon mari et mes enfants au bled, à Blida. Seulement mon mari est commerçant ici en France. On voudrait savoir si mon mari peut mettre Sania de Hijra en sachant qu'il doit revenir plusieurs fois en France. Barakallahu fikum. J'ai pas très bien compris ce qu'était la question là-dedans. Où est le problème? J'ai pas compris. voilà, Michel, j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Mon mari va faire la Hijra et être commerçant au bled, et il devra revenir pour la marchandise, ou là, je sais pas. Allahu a'lam.
De toute façon, moi, cette question, je l'ai bien comprise. Elle voulait dire si Yanni s'était permis à son mari, même en faisant la hijra, qu'il fasse des allers-retours. Par contre, ce que je n'ai pas bien compris, c'est la deuxième question. Yanni, est-ce que tu peux, si je puis dire, me résumer, c'est quoi la deuxième question de la personne qui a dit que Yanni, elle avait un autre nom que sur la carte d'identité? Ouais, je n'ai pas bien compris la question.
Non, la deuxième. Donc il dit qu'il a été adopté. Et après il demande s'il peut aller étudier la science. Donc normalement au Yémen ou en Arabie Saoudite, où la priorité est-elle d'aller voir d'abord sa vraie famille, donc ses parents biologiques. Est-ce que j'ai des péchés lorsque je suis contraint de mentir sur mon identité? Car donc c'est pas sa vraie identité, le nom qui lui a été attribué n'est pas son vrai nom. Et il dit, on m'a donné comme prénom Aboudou. Puis-je m'appeler Abdallah ou autre? Faut-il que je rentre à l'étranger avec ma famille? Même si je sais. Après, il demande s'il est obligatoire pour lui d'aller voir sa famille biologique, sachant qu'il ne les connaît pas, il ne connaît personne, et s'il ne le fait pas, est-ce que c'est un péché? Et il demande quel est son cas par rapport aux hadiths, donc les hadiths qui sont très menaçants sur les liens de parenté. Barakallahu fikoum. Bon, en résumant, c'est ça, cher. Tfadal, cher.
Non. Maintenant, si la personne sait qui sont ses vrais parents et sait que ses parents ne l'ont pas renié et qu'ils l'acceptent, ah, ce serait Yanni, une obligation qu'il maintienne les liens avec eux, qu'il aille chez eux. Ceux-ci, ceux-là sont toutefois oubliés, comment dire, la subhanahu wa ta'ala, vous êtes un saoul fadla bainakum, sont oubliés, ah, Yanni. Se compter pour lui être les gens qui l'ont adopté. Là, les gens qui l'ont adopté, surtout s'ils l'ont adopté bébé, combien qu'ils ont souffert pour lui, combien la femme elle a dû souffrir, combien l'homme a dû souffrir, combien de fois ils l'ont fait manger, combien ils ont acheté d'habits, combien ceci, combien cela. Donc, il doit garder les liens avec les deux. Avec les parents, beaucoup plus, car ce sont ses parents, vous savez le lien, comment ils doivent être avec les parents, et avec les autres, pour qu'ils ont été des gens qui m'ont aidé. Des gens qui m'ont aidé quand j'étais jeune et qui m'ont, Allah, permis, bi'idnillahi ta'ala, d'atteindre, yani, cet âge, bi'idnillahi ta'ala. Là, quand il dit qu'ils l'ont appelé Abdo, si c'est Abdo, ça veut dire Abdullah, c'est le diminutif, c'est tout. Au lieu de dire Abdullah, on dit Abdo. Aboudou. Si c'est Aboudou, il a dit, est-ce que je peux m'appeler Abdullah? Et non, fais-toi appeler Abdullah. Tu dis Abdullah. Quand quelqu'un te demande comment tu t'appelles, tu dis Abdullah. C'est bien. Il a dit comment, yani, le fait de mentir. Yani, pour mon nom. Moi, je ne vois pas comment qu'il ment. Là, il a une carte d'identité et sur la carte d'identité il y a tel ou tel nom. Là, lui, quand il rencontre des gens, s'il n'est pas obligé de leur montrer la carte d'identité, ce n'est ni des policiers ni des gendarmes, ni. Il dit qui il est vraiment, il ne dit pas comment il s'appelle sur la carte d'identité. Il dit je suis le fils de X et Y, comme son vrai père. Mais si maintenant c'est une question de police et de vérifier les papiers, etc., il leur donne la carte d'identité comme toi, voilà comment je m'appelle, etc. Ça, c'est pas de ma faute, ça se trouve sur les papiers, le temps que je corrige, s'il y a une correction qui peut se faire. comprenez, ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité. Une réalité amère. Je suis comme ça, je me suis trouvé, j'ai trouvé que mon nom, c'est comme ça sur la carte d'identité. Maintenant, si je ne montre pas ma carte d'identité, je risque d'aller en prison. C'est-à-dire, je n'ai pas de papier. Donc, inshallah ta'ala, c'est clair, idnillahi ta'ala. Pour la personne qui a parlé du gouverneur, là, comment se fait l'élection d'un gouverneur en islam? En fait, le calife, ou bien le gouverneur, son élection, son investiture, ne se fait jamais comme elle se fait de nos jours, par ce qu'on appelle démocratie. Car démocratie, ça veut dire donner le pouvoir au peuple pour qu'il se commande avec ce qu'il veut. Comme j'ai dit la fois passée, s'il décide que on va suivre le bouddhisme, on va voir la majorité ce qu'elle dit. Si la majorité vote pour le bouddhisme, c'est bouddhisme. La majorité vote, il n'y a pas de niqab, il n'y a pas de niqab. Et comme ça. En islam, il y a trois sortes. Trois sortes, et les trois sortes sont shara'i, légiférées. Même si la troisième sorte que je vais citer peut vous paraître un peu étonnante. Surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de science. La première procédure, c'est que ce gouverneur soit désigné par le gouverneur qui l'a précédé. Vous comprenez? On a maintenant un gouverneur. Maintenant, ce gouverneur, il vient à la télé ou je ne sais pas où, et il dit, je vous apprends, Inch'Allah Ta'ala, qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de me retirer de ce statut, hein, de la politique et de cette chose, et que je viens de donner, donc, Inch'Allah Ta'ala, la tutelle à X, qui va, Inch'Allah Ta'ala, prendre ma place. Et cela, exactement comme ce fut le cas lors de l'élection ou bien de l'investiture de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala. Omar ibn al-Khattab, qui l'a choisi? Une seule personne, c'est qui? Abu Bakr, radiallahu ta'ala, c'est-à-dire le gouverneur qui l'a précédé. Donc, elle dit, c'est la première procédure. Le gouverneur qui précède, l'âme, nomme le gouverneur qui va venir après lui. Deuxième procédure, l'accord unanime d'un conseil délibératif qui s'appelle Ahlul Hal wal Aql. Que ce conseil soit désigné par le calife précédent, comme ce fut le cas lors de l'investiture de Uthman ibn Affan, par un conseil aux membres délégués par Omar al-Khattab, ou par un conseil dont les membres ne sont pas désignés, comme ce fut le cas de l'investiture de Abu Bakr radiallahu ta'ala. Abu Bakr, c'est qui? Des gens comme ça, c'est pas Al-Hal ou Al-Aql. Ce ne sont pas des gens désignés, mais un groupe de gens comme ça, et ils ont décidé, ils ont dit, on met Abu Bakr, c'est bien. Ou bien, ce groupe de gens soit désigné par le calife. Le calife lui-même désigne un groupe de gens, il leur dit, choisissez un calife. Comme a fait Omar al-Khattab, il a choisi un groupe de gens, entre autres, son fils Omar al-Khattab, son fils Abdullah ibn Omar, à condition, il a dit, que mon fils ne soit pas choisi, mais qu'il choisisse, et non pas il soit choisi lui, et ils ont choisi Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala. Enfin, la troisième procédure, mais qui est peut-être étonnante pour certains, c'est l'investiture par la force et la contrainte, l'âme, du nouveau calife. Un nouveau califat va venir et va prendre le califat ou la présidence ou là, il va la prendre de force avec l'armée et la police et la gendarmerie et les chars et les avions et les tanks et toute l'armée, etc., va se soumettre. Là, Ikhlas, il a maintenant le premier mot et le dernier. Exactement comme ce fut le cas de qui? De Abdul Malik ibn Marwan, qui fut institué calife une fois Ibn Zubayr radiallahu ta'ala nous tuer. Et qu'il a réussi à tuer Ibn Zubayr alors qu'il était calife à la Mecque, hein, il a pris le trône, hein, de force et il est devenu calife. Donc je vous, ça, je vous l'ai dit la fois passée. Je vous l'ai dit, hein, contrairement au Tekfiri. Tekfiri te dit non, celui-là, hein, il a pris la chose par la force. Il est venu avec les avions et les chars, il a pris. Hein, celui-là, c'est pas mon gouverneur. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Celui-là, c'est notre gouverneur. Même si dans mon cœur et à l'intérieur de notre fort intérieur, je ne l'aime pas. Comme a dit le professeur, tu acceptes. Mais tu acceptes. Tu acceptes pourquoi? Parce qu'il y a la législation au-dessus de ta tête. C'est Allah Ta'ala qui commandait son prophète et ce n'est pas toi. Que pensez-vous par exemple? Que pensez-vous de Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj ibn Yusuf n'a-t-il pas tué 124 000 personnes? Tous. Les Sahaba et leurs enfants, les Tabi'in, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il ne m'a pas tué toi et moi et le boucher et le mécanicien. Il a tué 124 000, entre autres qui? Des Sahaba et des Tabi'in. Ce hadith où se trouve qu'il a tué 124 000? Se trouve dans Sahih Tirmidhi, du Cheikh Al-Albani Rahimahullah. Celui-là, Hajjaj ibn Yusuf, le sanguinaire, Allahu Akbar, 124 000, et Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, le symbole de la Sunna, l'homme qui, dans tous les Sahaba, c'est lui qui a suivi le Prophète Islam plus que quiconque au monde. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Il a joint sa famille, il a joint ses serviteurs et ses servants, etc. Il leur a dit, je vous prends à témoin. Et avant vous, je prends Allah Ta'ala témoin que je fais l'allégeance. Je fais l'allégeance à Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et que vous tous ici, vous devez aussi faire l'allégeance à Al-Hajjaj ibn Yusuf. Allahu Akbar. Yani, les takfirés de maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle, Alex Salah 19 ou je ne sais pas qui, Hada Yani, il connaît le dîn mieux qu'Abdullah ibn Omar. Ou bien, il est plus pieux qu'Abdullah ibn Omar. Vous comprenez, hein, les takfirés de maintenant? Ils se croient plus pieux que yani, les Sahaba d'autrefois, les grands Sahaba, les grands compagnons. Alors que celui-là, peut-être qu'il fait la salat tout juste, s'il l'a fait, il l'a fait à la maison, peut-être qu'il ne va même pas à la mosquée. Et du matin au soir, kafir, kafir, tarot, tarot, kafir, 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 si c'est kafir, pourquoi tu ne vas pas combattre? Pourquoi tu restes derrière le PC? Hein? Comme un peureux, derrière le PC, kafir, kafir, en train de gonfler les. Et d'enflammer certains des jeunes de 17 ans, 18 ans. Il y a trois façons. La première, c'est que le calife précédent le désigne. Comme ce fut le cas de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, désigné par Abu Bakr. La deuxième procédure, ou bien le calife qui existe déjà va charger un groupe de gens. Et il leur, les meilleurs viennent, les savants, etc. Et il leur dit, 7 ou 8, il choisit 7 ou 8, ou 10 ou 20, comme il veut. Et il leur dit, choisissez un calife. Choisissez un calife. Hein, il peut même leur faire, s'il veut, yani, des suggestions. Ou bien, ce n'est pas le calife lui-même qui choisit les gens, mais il y a des savants, il y a des gens, mashallah, qui ont un bon niveau, et par exemple, on n'a pas de calife. Alors, ils vont se grouper, etc., disserter entre eux, et choisir un calife entre eux. Ensuite, quand eux, ils ont choisi, ça veut dire, nous avons choisi. C'est pour ça que Bay'a, l'allégeance du gouverneur en islam, ce n'est pas, yani, chaque personne, il faut qu'elle aille au président ou là au calife et lui dire, classe, j'ai accepté ou là, je n'ai pas accepté. Quand c'est maintenant le vote, tu vas voter, tu dis oui ou non, ou d'un neutre. Là. Non, c'est pas comme ça. Ce sont, yani, ce groupe-là, de savants, et les groupes, des ennemis non hadou, hein, les élites, ce sont eux, hein, qui te représentent. Si eux, ils font l'allégeance, à qui? Au gouverneur, Ça veut dire, toi, tu as fait l'allégeance, que tu le veuilles ou pas. Ça te faut, Inch'Allah, les cinq dernières questions. Akoun. Il reste encore deux choses, ou là, trois. Il reste deux ou trois. On va terminer avec eux, comme ça, c'est pas la fin qu'il y ait cinq autres questions. Pour la personne qui a dit qu'elle voulait se marier, même dans la série précédente. Ah, ça, c'est vrai, Barakallahu fik. Non. Je profite en tant que j'explique à cela. Est-ce que tu peux me donner le verset? Même en français, Barakallahu fik. Même si tu as le verset en français, essaye de me le donner, Barakallahu fik. Pour la personne qui a dit qu'elle voulait se marier, etc., et que ses parents n'acceptaient pas, etc., ils ont dit qu'il est jeune, etc. Je dis, je ne conseille à aucune personne de se marier sans l'avis de ses parents. Tes parents, combien ils ont souffert pour toi, et peut-être tu es le plus âgé, ou peut-être c'est le premier mariage, et imaginez, ils apprennent que là, celui-là s'est marié, et yani, ils n'ont même pas peut-être été au courant, ni même on leur a demandé leur avis. C'est encore plus grave quand c'est dans un pays musulman. Peut-être quand c'est en France, ou là en Europe, ou là en Angleterre, ou là. Les gens, yani, se sont habitués à ce que, à partir de 12 ou 13 ans, classe. Zina, c'est halal. Avoir une copine, c'est halal. Aller dormir avec une copine, c'est halal. Donc se marier, ne pas se marier, c'est pas important. C'est pour ça qu'il y a même des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des gens de source musulmane et de souche musulmane qui, à l'oubillah, ont fondu, quand on fond le miel, quand on verse de l'eau dessus, ou bien le sucre. Ils ont fondu dans la société des copains. Et, hein, que sa fille se marie ou bien passe la nuit avec des hommes, là, ils sont pour le père. Oh, qu'elle fasse sa vie, hein. Oh, hein. Qu'elle fasse sa vie, elle est grande, elle sait cette fille, hein. Je dis à ce frère, patiente, mais quand je dis patiente, mais ça se contredit pas que tu n'arrêtes pas de parler du mariage du matin au soir. Non, du matin au soir. Dès que tu lèves, Alhamdulillah, il a dit Hiyana Badan Matana, ou il y a une chose, mariez-moi. Écoute, tu peux m'acheter telle chose? Oui, je vais te l'acheter, mais mariez-moi. S'il te plaît, donne-moi la chaise là-bas. Tiens la chaise, mais mariez-moi. Je veux me marier. C'est comme ça. Du matin au soir. Hein? Passe-moi le stylo, mariez-moi. Et alors, moi, je ne me marie pas. Comment je vais faire? Je vais mourir. Comment je vais faire? Eh, mon fils, tu es. Dis, je suis pas jeune. Mariez-moi. Bâcle-là. Du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. 10 jours, 15 jours, un mois. Ensuite, ta mère va dire à ton père, ou bien ton père va dire à ta mère, celui-là ou là, vraiment, il faut le marier. Celui-là, il va avoir un déclic dans la tête. Il va terminer chez la psychiatrie. Il vaut mieux qu'on marie notre enfant, bidnillah. Voilà. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est comme ça. Et je suis sûr que les parents, quand ils vont sentir que c'est quelque chose de sérieux et que, grâce à on n'arrête pas de parler de mariage, etc., ils vont lui faire, Inch'Allah Ta'ala, une solution. Ils vont lui faire, Inch'Allah Ta'ala, une solution. Pour, tu fais pénétrer la nuit dans le jour. Tu fais pénétrer la nuit. Non, ce verset, Inch'Allah Ta'ala, donc ne contient aucune complication. Il veut montrer, ce verset montre, yani la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et yani comment Allah subhanahu wa ta'ala dirige et régit ce monde, et c'est lui, comme il a dit dans un autre hadith, Ad-Dahr, c'est lui qui tu fais pénétrer le jour, dans le jour il fait pénétrer la nuit, et il fait pénétrer le jour dans la nuit dans le jour, car vous savez que le phénomène du jour et de la nuit, c'est pas quelque chose yani, de facile, hein, quand tu commences à méditer. Comment c'était le jour, et maintenant, ça a commencé à noircir, maintenant c'est devenu noir. Et le contraire, c'était noir, maintenant c'est devenu jour, où est passée la nuit? Ou alors le contraire, c'était le jour, maintenant c'est la nuit. Où est passé le jour? Où est-il passé? Ben, mais subhanallah, il fait rentrer le jour dans la nuit dans le jour, et ça se renverse. Le jour devient nuit, la nuit devient jour. C'est juste pour montrer l'un des grands signes de la puissance d'Allah subhanahu azza wa jal. Tu fais sortir le vivant du mort, tu fais sortir le mort du vivant. Beaucoup de savants ont dit, ça s'applique aussi sur, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais sortir le vivant du mort. Tu fais sortir le musulman du kafir. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère n'étaient-ils pas des kuffars? Et Allah Ta'ala a fait sortir d'eux le vivant. Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le musulman. Et c'est aussi en général comme ça. D'un cœur, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir un musulman. Et des fois, il fait sortir du vivant, il fait sortir un mort. Regardez de Nuh alayhi salam. Nuh, c'est un vivant ou c'est un mort? C'est un vivant. Et son fils, qu'est-ce qu'il est? C'est un mort. C'est un cœur. Non. C'est pour ça que lorsque Nuh a fait la dua, on a dit Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit non. Innahu laysa min ahlik. Ton fils n'est pas ta famille. Innahu amalun ghayru salih. C'est une mauvaise action. Donc, l'essentiel chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas que tu sois de telle ou telle famille, mais c'est les actions. Est-ce que tu faisais ce que Allah ta'ala aime ou que tu faisais le contraire? Nuh alayhi salam, c'est un vivant, c'est un messager, il ne faisait que ce que Allah ta'ala aime. Donc, son fils qui est kafir, chez Allah, ce n'est pas son fils. C'est son fils seulement biologique. Mais il n'est pas sa famille. Car sa famille, la femme de Nuh, c'est celle qui va rentrer avec lui au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ça c'est entre autres, hein. Sinon les savants ont dit d'autres choses sur ce verset. Ça y est. Qu'est-ce qu'il restait? Il reste pour la personne qui a dit que Yanni une classe Mongozi a chauffé, il faut arrêter. Pour la hijra, un mohim. Quand il a fait quand il va faire la hijra avec sa femme, un mohim, au moins, elle est sauvée avec ses enfants. Et deuxièmement, lui, au moins, il a mis la niya de la hijra en mettant dans sa niya une petite parenthèse que je fais des allers-retours, ce n'est pas pour devant. C'est juste pour terminer, inshallah ta'ala, le commerce que j'ai, ou la société que j'ai, ou la je ne sais pas qu'est-ce qu'il a là. Pourtant, il y en a qui fasse une solution pour rentrer définitivement aussi, rejoindre sa femme. Car c'est impossible que, il y en a le couple vive l'un de l'autre comme ça des mois et des mois. Des fois, Oudoubillah, ça fait même tomber dans d'autres choses très graves. Sans que la personne ne le veuille. Et les fitnas sont venues. Parce que c'est comme si, yani, une personne a un parapluie sur sa tête, elle l'enlève. Tu enlèves le parapluie, et classe. Maintenant, si la pluie tombe, elle va te mouiller. Toi aussi, tu avais ton mari là, toujours. Courir à toi au-dessus de ta tête, parce que il commence à s'éloigner à partir. Si des fitnas arrivent, il faut dire, yani, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Enfin, pour le hadith de l'araignée, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi lorsqu'il est rentré dans la grotte et qu'il y avait une araignée et qu'il y avait aussi, il y avait un pigeon. Ce sont des hadiths faibles, ce sont des hadiths daif. Le hadith de l'araignée et le hadith du pigeon qui a pondu des œufs sont des hadiths faibles pour deux choses. D'un côté, à cause de la transmission, si vous allez voir les chaînes de transmission de ces hadiths, vous trouvez qu'ils contiennent des rapporteurs et des narrateurs qui ne remplissent pas des conditions. Et deuxièmement, c'est faible, même du côté de la logique. Car, Abou Bakr, qu'a-t-il dit ? Il a dit à Rasoulallah, s'ils avaient seulement descendu un peu leurs yeux vers le bas, ils nous auraient vus. Donc, ce n'est ni l'araignée ni le pigeon qui ont été la cause et le sabab. Et c'est Allah Ta'ala qui a bloqué leur vue et leurs yeux dans un certain niveau pour qu'ils ne voient pas un peu plus bas. Car Allah Ta'ala, s'il ne veut pas qu'une personne voit, il la bloque. Il ne veut pas qu'elle voit cette personne, il la bloque. Tu n'as pas remarqué toi que une personne qui te cherche, une personne qui te cherche, et parce qu'on soit devant toi et elle ne te voit pas. Allah Ta'ala lui bloque les yeux, elle ne te voit pas, elle ne regarde pas de ton côté. Elle regarde juste la personne qui est à ta droite ou bien à ta gauche. Elle te regarde pas toi au milieu et elle va te dire où étais-tu hier, je t'ai cherché partout, je t'ai pas rencontré, je t'ai pas. Subhanallah, Allah n'a pas voulu que cette personne te voit. Imaginez, pour protéger son messager et son meilleur serviteur Abou Bakr, est-ce qu'il laisserait les coffres les voir? Donc l'araignée, c'est faux. Il n'y a pas un hadith sur l'araignée, ou plutôt, le hadith de l'araignée est un hadith faible. Et aussi le hadith du pigeon. Car, si c'était l'araignée et le pigeon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de miracle ni de prodige. Il y avait là-bas une araignée, il y avait un pigeon. Si moi aussi je me cache dans une grotte, et il y a un pigeon qui vient pondre, et une araignée qui vient tisser, hein, aussi les coffres ne vont pas me voir. Mais le problème, c'est que il n'y a ni araignée, ni pigeon, et les coffres n'ont pas pu le voir, ou bien les voir. C'est ça le vrai prodige, c'est ça le vrai miracle. Sans araignée ni pigeon, vous ne pouvez pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est là à un mètre devant vous. C'est ça le vrai prodige. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Barakallahu fikoum, jazakumullahu khayran. Nous allons rencontrer, inshallah ta'ala, mercredi, bi'idhnillahi ta'ala. Muslim, as-tu une dernière chose à dire, tafadhal?
Chérie, il restait une question, inshallah, mais on va la laisser à mercredi. Je demanderai à cette personne qu'elle l'a donné dans le tout début des questions-réponses pour la faire passer, parce que vous toussez beaucoup. Donc j'ai pas envie de... C'était la question sur les dons, chère. Mais apparemment, c'est pas urgent, inshallah. Donc je préfère la laisser pour mercredi et que vous alliez vous reposer. Bienillah. Donc laissez, chère. Je laisse cette question pour mercredi, inshallah. Et ce sera la première des questions. Toi, d'achère.
Mouslim, tu parles de la question des sœurs qui vont je ne sais pas où et qui récoltent de l'argent. Non, il n'y a aucun problème, Inch'Allah, de faire cette chose. Faut voir seulement, c'est très important, yani, où va aller cet argent. Pour quelle association? Quelle association? Une association de bien ou de mal? Une association du Minhaj ou une association de Takfir et Khawarij? Pour voir ce ou la de Ahbash? Il faut voir où va aller cet argent. Il faut être sûr que cet argent qu'on va récolter va aller dans le but de ravir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour le Minhaj. Il n'y a aucun problème, bi'idhnillah ta'ala. Il n'y a aucun problème. Bismillah ta'ala. Naam. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.